Rendez-vous sur Grande Allée.
Boulevard 102.1. Gratis.
Spotify, 10,99 par mois. Patreon, 5 $. Abonnement au câble, 55 $. Journal, 24 $.
Boulevard 102.1.
Gratis.
La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité. Puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0 $.
Gratis.
Application gratuite, web radio gratis, FM gratis.
Boulevard 102.1.
La vraie solution à l'inflation.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec. Merci d'être là, j'espère que vous avez passé une belle journée. Après deux jours de pluie, aujourd'hui ça n'a pas été si pire. Vous savez quoi? Ce que Dame Nature nous réserve pour les prochains jours, c'est que du beau temps jusqu'à lundi prochain. Donc on va bâtir là-dessus les amis. Puis encore une fois, je salue les motocyclistes dont je fais partie. Il nous reste quelques jours à profiter du beau temps, donc faisons-le en toute sécurité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Robert Laflamme. Robert Laflamme, c'est un journaliste. Il est aussi auteur du livre Les Stachnis. Il est au bout du fil. Monsieur Laflamme, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être là. J'imagine que vous avez un agenda qui est assez chargé là, avec le Canadien de Montréal qui débute son camp d'entraînement. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est dimanche où on va avoir un match entre les Blancs et les Rouges au Centre Bell. Puis ça a l'air que les billets ils ont trouvé preneur très rapidement. Le Centre Bell va être probablement en plein pour ce qui est de dimanche. Quelle frénésie, hein, le Canadien de Montréal. C'est incroyable.
Oui, à Montréal, là, c'est... La ville est bleu, blanc, rouge, et puis ça repart de plus belle. L'équipe n'a pas perdu un match encore, donc l'espoir est là. Et puis on verra ce que ça va donner sur la patinoire. Cole Caulfield est en santé.
Ouais.
Alors Suzuki qui continue de progresser, les jeunes, Harvey Pinard et tout ça. Alors c'est ça, il y a toujours de l'espoir en début de saison ou au camp d'entraînement. C'est souvent au mois de novembre que ça se garde.
Là, vous les avez côtoyés dans les dernières heures. Là. Je pense qu'ils étaient à leur test physique. Est-ce que c'est l'examen médical, c'est ça?
Oui, c'est des tests physiques et des examens médicaux. Là. C'est la journée de rentrée, si on veut, avant que ça commence sur la glace là, demain matin. Et c'est toujours comme ça, là. Ouais, c'est ça.
Puis Carey Price, est-ce qu'il était présent? Parce qu'on sait que Carey Price est pas mal terminé, mais Carey Price devait être là pour des raisons contractuelles, de ce que je comprends.
Là. Oui, ben, écoutez, nous, en fait, là, c'est une activité qui est comme fermée aux journalistes. L'équipe va envoyer des documents, des photos ou des vidéos de ça. Et puis... On verra, mais j'imagine qu'il était là aussi. Je pense qu'il était là dans le cadre du tournoi la semaine dernière, du tournoi de golf. Et puis, peut-être qu'on a profité à cette occasion pour passer les tests et tout ça. Mais effectivement, il doit se soumettre à ça pour prouver qu'il n'est pas en mesure de jouer et ainsi pouvoir toucher son salaire. Là.
Ouais. Le Canadien qui est en reconstruction, là, je pense que c'est pas une surprise pour personne, mais j'ai regardé le tournoi des recrues M. Laflamme, puis j'ai agréablement été surpris par quelques joueurs. Là, et j'ai très hâte que la saison commence pour savoir qui est-ce qui va être de ce club-là. Moi, il y a un joueur qui m'a impressionné, je sais pas si vous l'avez vu, mais Joshua Roy, un gars qui vient de la Beauce, un gars qui a un hockey sense incroyable, capable de jouer bien défensivement et offensivement. J'espère juste qu'il va faire le club cette année, tout comme Raphaël Harvey Pinard. C'est le genre de Québécois qu'on a de besoin pour donner des exemples aux jeunes Québécois comme quoi ben, c'est possible jouer au hockey au Québec puis évoluer pour un club de hockey comme le Canadien de Montréal. C'est de beaux modèles de joueurs de hockey.
Oui, Joshua Roy. Continue de progresser, lui. Je suis pas sûr qu'il va mériter un poste avec l'équipe cette année. Là, c'est pas mal complet à toutes les positions.
Ouais.
Mais bon, il s'agit qu'il connaisse un très bon camp. On parle en bien de lui dans l'organisation. On le voit là comme un joueur, un beau projet là pour les années à venir, mais peut-être qu'il devra faire ses classes dans la Ligue américaine un peu. Moi, je pense que cette saison, ça va être le Rocket de Laval qui va être intéressant à suivre, le Canadien également, évidemment, mais le Rocket avec devrait être une équipe bourrée de jeunes. Alors, ça va être là que ça... on va voir là, lesquels sont les plus déterminés à atteindre la grande ligne.
Ouais. Ben, savez-vous quoi? C'est une bonne idée. Je pense que je vais suivre le club école cette année, puis je pense que ma blonde vous aimera pas, parce que ça va faire un peu moins de temps pour elle, j'imagine. Monsieur Laflamme, vous suivez, vous êtes un journaliste sportif depuis plusieurs années. Vous avez commencé dans les années 90, si je me trompe pas, c'était avec les Nordiques de Québec, c'est bien ça?
Oui, exact. J'ai fait mon premier match en 89, mais j'étais pas encore à temps plein avec la presse canadienne. Mais mon premier match, je m'en rappellerai toujours, c'était le fameux Toilet Bowl. Je sais pas si les plus jeunes, ça leur dira rien, là, mais c'est le fameux soir contre les Whalers d'Hartford, où Carey Fraser, les partisans, on sait toute l'affection que les partisans des Nordiques portaient pour Carey Fraser. Mais ce soir-là, donnait des pénalités à répétition aux Nordiques, qui étaient à ma foi méritées. Mais comme Carey Fraser, on l'aime pas beaucoup, les amateurs des balcons ont commencé à vider les salles de bain des rouleaux de papier de toilette et de tirer ça sur la patinoire. Là, ça a donné des images spectaculaires. Moi, j'étais comme stagiaire ce premier soir-là avec mon futur collègue, et puis j'ai dû sortir l'ordinateur pour écrire là-dessus, parce que c'est ça, les rouleaux de papier. À partir de ce moment-là, on a mis des feuilles là, au lieu des rouleaux de papier de toilette dans les salles de bain au Colisée.
Ah oui, mais moi, je me souviens pas de ça. Pourtant, je suivais les Nordiques à cette époque-là. J'étais quand même jeune, mais je me souviens pas de cet événement-là. Puis, savez-vous quoi? Va me donner le goût d'aller revoir les images. Ça doit être disponible sur YouTube.
Oui.
Mais oui, effectivement,
Carey
Fraser...
Le Toilet Bowl qui appelait qu'on a baptisé ça à l'époque.
Carey Fraser était effectivement pas un de nos préférés lorsqu'il se présentait au Colisée. Est-ce que être journaliste sportif, c'est ce que vous avez toujours voulu faire lorsque vous étiez jeune?
Oui. C'était clair dans mon esprit dès le secondaire. Moi, j'allais dans un collège privé à Victoriaville, et puis j'allais au dépanneur du coin en cachette acheter le Journal de Montréal, parce que c'était comme interdit de lire le Journal de Montréal au collège. On voulait qu'on lise Le Devoir ou, tu sais, des grands quotidiens un peu plus sérieux, mais moi, je voulais lire le Journal de Montréal parce qu'il y avait une section des sports d'à peu près 30-35 pages, là, c'était fou. Puis les Régent Tremblay, les Serge Touchette, etc., tous ces noms-là, Marc Lachapelle, je voulais lire à chaque jour tout ce qu'ils avaient écrit. Donc, c'était clair dans mon esprit que c'était ça que je voulais faire, mais c'était une autre chose là, de le réaliser, parce que au moment où moi j'ai terminé l'université, il y avait peu de postes disponibles, seulement que les chanceux ou en tout cas ceux que le timing était bon pour eux réussissaient à se frayer un chemin là. Alors moi j'étais parmi ceux-là. J'ai commencé à travailler à la presse canadienne en 1990, justement un peu de temps après avoir fait mon stage, ou en tout cas un essai avec eux. Et puis, de fil en aiguille, ben c'est ça. Me voici comme 33 ans plus tard encore de service. Là. Et maintenant, je travaille depuis 8 ans pour la Ligue nationale de hockey. Là. Le site internet lnh.com.
Ah, wow! Puis vous me rappelez l'époque où on regardait le Journal de Québec ou le Journal de Montréal, puis on commençait par la fin, hein?
Ah oui, c'était toujours ça.
Oui. Ouais, on faisait ça, puis à un moment donné, ben, de plus en plus on vieillit, de plus en plus on se rend compte que, bon, on paye des taxes, des impôts, on commence à s'intéresser à la politique, puis on commence à s'intéresser à ce qui se passait dans notre ville. Donc on commençait par page 1, page 2, page 3, mais oui, quand j'étais très jeune, toujours été un passionné de sport, mais je commençais par les dernières pages du journal. C'était pour moi les plus intéressantes. Au fil du temps, au fil des décennies qui se sont succédées, bon, vous avez commencé très jeune, on va le dire, là. Vous avez commencé dans les années 90. Est-ce que la relation avec les joueurs a changé? Puis si oui, de quelle façon cette relation-là a changé?
Ah, oh, c'est complètement différent. Un gros virage à 180 degrés par rapport à mes débuts. Maintenant, ce que je constate, c'est que les organisations ont pris les choses en main de plus en plus. Ce sont elles qui dictent les règles et qui font en sorte d'ériger plus souvent qu'autrement un mur entre les athlètes et les journalistes. Moi, à l'époque, tu sais, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé chez les Nordiques, je voyageais dans le même avion que les Nordiques. Il y avait Joe Sakic qui assis en arrière de moi avec Mike Ritchie et Owen Nolan. Ça jouait aux cartes. Et puis, on restait également dans les mêmes hôtels que les joueurs. On arrivait avec eux à l'hôtel et puis on nous donnait les clés de nos chambres. Puis donc, on vivait un peu comme les joueurs des Nordiques. Et puis donc, cette proximité-là faisait qu'on avait des confidences de joueurs. Il y avait beaucoup de Québécois aussi dans ce temps-là qui jouaient pour les Nordiques. Alors, tu sais, Stéphane Fizet ou Claude Lapointe, on attendait un avion ou un autobus pour retourner à l'aéroport. Ben, on jasait avec eux de tout et de rien. Des fois, c'était de hockey. Des fois, c'était d'autres sujets. Mais cette proximité-là faisait que, bon, on avait tous les numéros de téléphone des joueurs, puis s'il se passait quelque chose, un joueur était échangé ou un joueur était blessé, on l'appelait chez lui le soir pour lui poser des questions. Là, okay. Maintenant, oubliez ça, là. Vous pouvez pas faire ça, là. Le journaliste qui va appeler un joueur chez lui, encore, des journalistes ont beaucoup de numéros de téléphone, mais celui qui va s'essayer d'appeler Cole Caulfield chez lui ce soir pour avoir des nouvelles, ou peu importe, là, s'il se blesse au cours des prochaines journées, au camp d'entraînement, ou peu importe, ben ça fonctionnera pas. Là. Il va se faire rabrouer ou il y aura un petit meeting avec le département des coms des Canadiens. Là. C'est vraiment très, maintenant... réglementé, si je puis dire, puis on n'a plus le même accès qu'on avait aux joueurs. C'est complètement différent. Maintenant, c'est une grosse business, il faut comprendre, puis c'est plus du tout comme c'était avant. Là. C'est complètement différent.
Est-ce qu'il y avait une relation d'amitié qui pouvait s'instaurer dans les années 90 avec les joueurs de hockey que vous suiviez? Vous avez parlé de joueurs québécois qui étaient là, mais vous avez parlé aussi, vous m'avez parlé des Nordiques de mon époque. Là. Moi, j'étais un Nordique dans l'âme. Vous m'avez parlé d'Owen Nolan. C'était un de mes joueurs préférés chez le Nordique de Québec. Est-ce qu'il y avait des relations d'amitié qui s'entamaient entre les joueurs puis les journalistes? Est-ce que, parfois le soir, vous alliez dans les mêmes discothèques?
Ben, tu sais, d'amitié, je dirais pas, là. Il y avait un respect, il y avait une ligne qu'on n'osait pas franchir de part et d'autre. Puis, ce respect-là faisait que... parce que des fois, on avait aussi peut-être à critiquer les joueurs parce que ça fonctionnait pas toujours comme ils le voulaient, voilà, mauvais rendement ou peu importe. Mais on le faisait dans le respect tout le temps parce que on n'avait pas intérêt là justement à être trop proche des joueurs ou à être trop loin aussi. Il fallait garder une certaine distance. Alors, mais ça arrivait à l'occasion qu'on se retrouvait dans les mêmes restaurants, les mêmes bars et tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment de... Je peux pas dire que Jocelyn Thibault ou Stéphane Fizet là, étaient des amis. Maintenant, quand je les vois, on se parle et tout ça, puis on est des plus que des bonnes connaissances, mais je vais pas, on n'allait pas souper là. Les samedis soirs quand l'équipe jouait pas, on n'allait pas là, prendre des repas avec eux là. Mais c'était une belle dynamique, moi je trouvais. Tu sais, comme moi, tu l'as dit, j'ai commencé jeune. Oui, effectivement, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à courir les Nordiques. Puis quand Guy Lafleur, qui était mon idole, ouais, des Canadiens, quand il a commencé à jouer, quand Guy Lafleur a joué pour les Nordiques, moi j'étais comme wow, ok, mon idole qui joue pour les Nordiques. Donc j'ai pu le côtoyer en voyageant dans les mêmes avions, les mêmes hôtels et tout ça. Et j'ai été à même de constater comment Guy Lafleur était une personne très, très généreuse et gentille avec les gens et tout ça. Puis il est arrivé à plusieurs occasions qu'il est venu souper avec nous sur la route parce que justement, il disait, moi, ça me tente pas d'aller... T'es pas de la même génération que les Owen Nolan, Mike Ritchie et tout ça. Il disait, ça me tente pas d'aller au Burger King avec... Il disait ça à la blague, là, avec Owen Nolan. T'sais, il préférait venir manger dans un bon restaurant avec... les journalistes qui étaient un peu plus de sa génération. Alors, les discussions qu'on a eues, les anecdotes que Guy Lafleur nous a racontées, tout ça, Ça m'a marqué à vie. Là. Ça me reste là, pour le reste de mes jours.
Ben, je comprends. Puis vous me rappelez des souvenirs qui sont inoubliables. Moi, je pouvais pas être au Colisée Pepsi à cette époque-là. J'étais très jeune. Puis on n'avait pas une famille qui était très fortunée non plus. Mais moi, je me souviens d'avoir été devant ma télé 14 pouces qui n'était pas très grosse. Puis je regardais Guy Lafleur faire le tour de la patinoire pour se réchauffer. Pas de casque. Et ça me faisait véritablement triper. Là. Il avait de l'air d'un super-héros comparativement aux autres.
Oui, oui, oui. Guy Lafleur, c'était plus grand que nature. Moi, ça a été vraiment... Tu sais, des fois, on est déçu quand on... Quelqu'un qu'on a idolâtré, quand Guy Lafleur a commencé, moi, j'avais une douzaine d'années. Alors, tu sais, il sortait de chez les Remparts et tout ça, puis bien, je suivais sa carrière, puis j'ai été fasciné par ses exploits. Puis quand on se dit, on idolâtre quelqu'un, puis on se dit, bon, on a la chance de le rencontrer, de le côtoyer, des fois, on est déçu. Mais avec Guy Lafleur, là, ça a été tout le contraire. J'ai été encore plus conquis, tu sais, après l'avoir connu comme personne. Il était vraiment un gentleman, très sympathique. Puis de le voir dans l'Ouest canadien, c'était un phénomène. Quand les Nordiques allaient jouer dans l'Ouest canadien, après les matchs, tout le monde voulait avoir un autographe de Guy Lafleur. Puis nous, on était dans l'autobus, on attendait, mais lui signait jusqu'à temps qu'il y avait quelqu'un devant lui pour lui soumettre un bout de papier ou une carte de hockey. Puis des fois, il disait à Jean Martineau, qui était responsable là, des communications puis des déplacements des Nordiques sur la route, ben allez-vous-en sans moi, je vais prendre un taxi pour revenir à l'hôtel. Là. Tu sais, c'était vraiment... quelque chose.
Un être d'exception.
Oui.
Robert Laflamme, vous êtes journaliste, vous suivez le Canadien maintenant, mais vous êtes aussi auteur. D'où vous est venue l'idée de faire un livre sur les frères Stachny? Est-ce que c'était une histoire que vous connaissiez déjà ou vous avez dû faire énormément de recherches là, pour que le livre soit le plus possible près de la réalité?
Non, c'est une histoire que je connaissais très bien parce que, bon, à l'époque, en 1980, j'avais une quinzaine d'années, j'étais adolescent, j'étais pas si vieux que ça. Mais en travaillant, en côtoyant mes collègues de Québec pendant 5 ans, au début des années 90, ça, dans tous les soupers qu'on a eus ensemble ou des choses, souvent le sujet revenait. Puis, tu sais, les Maurice Dumas, les Claude Cadorette, et Albert Ladouceur de Regretter Mémoire, ces deux derniers-là. Et puis même Kevin Johnston, et puis Claude Bédard, tout ça, on en parlait. Puis souvent, les histoires fusaient au sujet de l'évasion des frères Stachny et tout ça. Puis bon, ben moi, c'est un sujet qui me fascinait. Et puis je connaissais Gilles Léger, qui a travaillé pour les Nordiques longtemps, tout ça. Alors, de fil en aiguille, moi, j'avais hâte qu'il y ait un film qui soit fait là-dessus ou un livre et tout ça. Puis c'est dans le cadre de mes tâches de journaliste au Centre Bell à couvrir les Canadiens, Gilles Léger était recruteur chez les Rangers de New York. Et puis souvent, on se voyait là, puis on jasait à cause de la connexion nordique. Et puis il y a un soir, tout bonnement, je me rappellerai toujours, c'était en 2009, je suis sur la passerelle, je rencontre Gilles qui vient de s'installer à sa place et tout ça. On se prépare à aller souper, puis je lui pose la question, Gilles, est-ce que l'histoire des frères Stachny va être portée au grand écran à un moment donné? Est-ce qu'il y a la chance que un film soit fait là-dessus, tout ça? Il me dit, je suis en négociation avec Hollywood et tout ça. Gilles, il visait vraiment Hollywood pour un film là, vraiment de grande envergure et tout ça. Et puis, j'ai dit, et puis, un livre là, là-dessus, ça pourrait être bon. Puis, Gilles, du tac au tac, m'a dit, est-ce que ça tente de l'écrire? C'est comme ça que ça s'est fait tout bonnement. Sur la passerelle du Centre Bell, qui était c'était le Centre Bell, c'était pas le Centre Molson à l'époque, en 2009. Et puis, assoyons-nous, puis voyons ce qu'on peut faire. Puis, bon, moi, un de mes bons amis, c'est Luc Gélina d'RDS. Qui connaissait un succès littéraire là, avec C'est la faute, hein, puis des livres avec Urtubis, la maison d'édition. Alors, c'est comme ça que j'ai jasé avec Luc. J'ai dit, comment on fait si on veut écrire un livre et tout ça? Il m'a amené chez la maison d'édition Urtubis. On s'est présenté là, moi, Gilles et moi, et puis la suite est connue. Là, ça, on a... on était très intéressés par le projet. Alors, en 2009, je me suis mis à l'écriture, 2010-2011, et la publication du livre en 2012. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de recherches, beaucoup d'entrevues. J'ai au travers de toutes mes autres activités, j'avais des enfants aussi à la maison, tout ça. Je voyageais pour le hockey, alors à couvrir les Canadiens. Alors, tout ça mis ensemble fait que ça a été un gros projet qui a abouti en avril 2012 avec la parution du livre.
Est-ce que vous avez eu à côtoyer les Stachny?
Oui, souvent, je leur ai... on a eu des discussions. Peut-être, dès qu'ils revenaient au Québec, on s'arrangeait pour se voir. J'ai eu plusieurs entrevues avec Peter. Marianne était facile à trouver parce qu'il était à Saint-Nicolas, à Lévis, et puis j'allais le voir à son club de golf, et puis Anton, lui, était en Suisse. On s'est beaucoup parlé par Skype à l'époque. On a fait beaucoup d'entrevues comme ça, et puis j'ai été en contact très régulier, constant avec chacun des trois. Jamais les trois ensemble. Par contre, au lancement, on avait Marianne et Anton qui étaient là. Peter n'a pas pu venir, mais à ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Anton et son épouse Galina qui était là. Alors, on a appris à se connaître et tout ça parce qu'on s'était parlé par Skype, mais oui, je peux dire que j'ai très bien connu les trois frères là pendant tout le processus qui a mené au livre.
Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, on parle des frères Stachny? Parce que les faire venir, pour ceux qui connaissent l'histoire, moi j'ai entendu l'histoire au grand complet de Maître Marcel Aubu, puis il nous avait raconté l'histoire, puis j'étais bouche bée, tu sais, mais je me disais, bon, peut-être que c'est la proximité, le fait que moi j'ai vu les joueurs Stachny à la télé et tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'encore à ce jour, on trouve ça exceptionnel, le fait qu'on ait réussi à joindre ces trois frères-là au Nordique de Québec?
Je pense que ce qui fait partie de la légende un peu des Stachny, c'est la façon dont ils se sont implantés, si on veut, ou établis à Québec. Comment ils ont adopté la ville de Québec et comment les Québécois ou la ville de Québec les a adoptés également. C'était une histoire d'amour entre ces trois-là qui sont arrivés. Tu sais, les Nordiques arrivaient dans la Ligue nationale, une équipe peu compétitive, et puis tout d'un coup, on greffe un trio avec deux frères, tu sais, trois attaquants, trois frères qui jouent sur le même trio. Tu sais, si on regarde ça, il n'y a pas eu de plus grand trio de frères dans l'histoire du hockey, là, point. Tu sais, pas seulement que la Ligue nationale, là, si on regarde ça, là, c'est un phénomène unique. Marianne est arrivée un peu plus tard que les deux autres, pour des raisons qu'on connaît, qui sont expliquées dans le livre et tout ça. Mais c'est ça, c'était un phénomène unique. Et les Québécois, les Stachny se sont sentis vite acceptés des Québécois. Et les Québécois les ont vite acceptés, tout à fait. Ils se sont intégrés au Québec de magnifique façon.
Si c'était à refaire, est-ce que les Stachny referaient ce qu'ils ont fait dans le temps?
Moi, je suis convaincu que 100% oui. 100% oui. Puis bon, c'est plate un peu parce que Anton et Peter ont pris la décision de venir sans Marianne. Et j'irais même jusqu'à dire que si c'était à refaire, ils referaient la même chose. T'sais? Pour avoir leur avoir parlé souvent, pour avoir eu des discussions là-dessus, puis pour avoir... compris un peu les intentions derrière ça, parce que, tu sais, pour les jeunes comme toi, un peu, tu sais, c'est un peu plus difficile à comprendre. En 1980, là, la guerre froide, là, ouais, existait en Tchécoslovaquie, tout ça, le régime communiste auquel on était soumis, là, dans ces pays-là, ben, tu sais, Peter, quand il m'en parle, c'est avec beaucoup de passion encore, tu sais, vraiment, on sent qu'ils ont été marqués au fer rouge par ça, puis ils voulaient vraiment se défaire de ce joug-là. Ils voyaient pas d'avenir pour lui et sa famille, sa future épouse ou tu sais, qui était enceinte au moment qu'ils ont déserté là, en Autriche et tout ça. Alors, tu sais, si c'était à refaire, là, ils referaient, moi je suis convaincu, 100% la même chose qu'ils ont fait.
Et pour les gens qui pourraient se procurer votre livre, M. Laflamme, est-ce que vous commencez à parler des Stachny quand il était en Tchécoslovaquie? Ou à partir de quel moment l'histoire nous rapporte l'histoire des Stachny? Quand ils sont arrivés à Québec ou avant?
Bon, ça commence dès le départ, quand les dirigeants des Nordiques, Gilles Léger et Marcel Aubut, se rendent en Autriche parce qu'ils participent à un tournoi hors concours avant la saison. Et puis c'est là que ils ont eu un appel, les dirigeants des Nordiques, quelques jours avant pour dire « c'est là que ça se passe, vous voulez venir nous chercher ». C'est là parce qu'on avait manifesté l'intérêt. Puis là, il y a comme les dessous de tout ça avec un agent, je dirais pas un agent secret, mais quelqu'un qui est un peu qui fait le lien entre les Nordiques et les Stachny là-bas et tout ça. Alors ça commence directement quand les dirigeants vont les chercher, Peter et Anton là-bas, et puis après ça on explique là tous les dessous de cette évasion là qui a été vraiment une opération périlleuse là du début à la fin. Puis c'est ce qui rend le livre très intéressant. Puis moi, j'étais convaincu en publiant le livre que éventuellement ça se retrouverait au petit ou au grand écran. Je me disais, il faut que ça se fasse le plus vite possible. Puis bon, ça, une dizaine d'années plus tard, 11 ans plus tard, on apprend cette semaine que Crystal Film veut faire une série de documentaires avec basée sur mon livre, en fait. Alors ça me touche énormément.
Ben oui.
Ça m'émeut même, mais puis j'espère que ça va fonctionner. On dit qu'on a un plan B, qu'on ferait un film si on peut pas faire un documentaire, mais je suis sûr que ça va intéresser un réseau de télévision. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. On parle qu'en 2025, on pourrait commencer le tournage et tout ça. Là, j'espère que la vie me prêtera suffisamment d'années pour voir le produit final et aller voir ça.
Ben, je vous le souhaite, M. Laflamme. Donc, on invite les auditeurs à se procurer votre livre « Les Stachny » qui est franchement intéressant. Puis, en espérant que tout ça donne lieu à un documentaire puis qui sait, un film qui sera tourné à Hollywood, M. Laflamme, grâce à vous, grâce à votre livre.
Ah oui, ben, j'ai pas de prétention trop hollywoodienne. Là. Moi, je trouvais que c'était un projet qui devait se faire au Québec, parce que les Stachny appartiennent un peu au Québec, à quelque part, tu sais, puis eux, ils disent que Québec a été vraiment leur terre d'adoption, là, ils en parlent avec tellement de passion, puis tu sais, l'hommage qu'on leur a rendu à la Marche bleue, j'étais là, tu sais, la sculpture qu'on a fait, ou en tout cas des joueurs de hockey là, auprès du centre Vidéotron, j'allais dire le Colisée, mais le vieux Colisée, mais le centre Vidéotron dans l'allée de commémoration là, des grandes vedettes du hockey là, qu'il y a eu à Québec, là, c'est pleinement mérité. Puis bon, moi, contrairement à ce que certains ont trouvé, moi je trouve ça vraiment une idée, une superbe bonne idée de faire des trois petits joueurs de hockey là, de hockey sur table, là, parce que ces trois-là, effectivement, là, t'sais, ont marqué l'histoire du hockey à Québec, mais aussi l'histoire du hockey en général. Puis c'est grâce à eux, si maintenant, il y a beaucoup, t'sais, si le hockey s'était internationalisé, puis qu'il y a des joueurs de tous les pays, là, les meilleurs qui veulent venir jouer dans la Ligue nationale.
Robert Laflamme, ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. Je vous souhaite une belle saison avec le Canadien de Montréal, puis on continue de vous lire.
Parfait, merci beaucoup.
Au revoir.
À la prochaine.
Marceau, le soir. Reg against le matin.
Boulevard 102-1.
Brasse, c'est le fun, ça jase, ça fait parler aussi. Pour quelqu'un qui suit un petit peu moins la politique, c'est quelque chose qui vient m'accrocher pas mal. On a au bout du fil ce matin la vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault.
Ça fait déjà quelques minutes qu'on se parle. Je trouve qu'on a établi une belle relation. Donc, j'imagine que vous allez accepter avec grand plaisir de nous dévoiler les montants estimés pour le tramway de Québec. Non, c'est pas le même qu'on va réussir.
Pour ton rattrapage de Rage Against le matin, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Le Québec, c'est chez nous. Pis c'est bien beau, mais la météo en montagne russe, des fois, on s'en passerait. Jusqu'au 29 septembre, soyez à l'écoute de Gravel dans le retour pour connaître les destinations avec des températures idéales selon nos animateurs. Révélé lors d'un jeu de « Tu chauffes, tu gèles ». Notez les lieux au boulevard.fr.
Vous pourriez gagner une thermopompe Carrier 12 000 BTU offerte et installée par Enviro-Confort.
Grâce à Boulevard 102.1 et Enviro-Confort, c'est votre maison qui deviendra l'endroit le plus agréable au monde.
BLVD. 102.1.
Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 64 millions. Ça change pas le monde, sauf que, quand même, ça commence à le changer un petit peu, là.
Chez Toyota, on construit des camions de qualité en pensant à vous. Parce que tout le monde a besoin d'un ami qui a un camion. Encore mieux si c'est un Toyota qui a gagné le prix de la meilleure valeur résiduelle du Canadian Black Book. Alors quand sonne l'inévitable appel à l'aide, montez dans votre camion primé. Parce qu'avoir un ami comme vous, ça aussi, c'est gagnant. Quand c'est l'heure de se retrousser les manches, c'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Chez Lunetterie Bellan, obtenez le meilleur prix garanti avec les forfaits monture et verre. 99 $ pour les simples visions et 249 $ pour les progressifs. Et pour un temps limité, économisez jusqu'à 100 $ à l'achat d'une deuxième paire. Lunetterie Bellan, service, qualité, bas prix.
Le 14 octobre, prépare-toi pour la tournée des Grands Ducs présentée par Weekend 91.9. Destination Beauce t'embarque dans un autobus et t'amène boire et manger chez 10 producteurs d'alcool et gourmand de la Beauce. Une journée festive et gourmande que t'es pas prêt d'oublier. Réserve ta place au destinationbeauce.com.
Prévoyez vos déplacements dans la grande région de Québec. La fin de semaine du 22 au 25 septembre, les voies de circulation de l'autoroute 73 seront réduites de moitié dans le secteur du pont Pierre-Laporte en raison de travaux majeurs. Une forte congestion routière est anticipée. Évitez les déplacements interrives non essentiels et privilégiez le covoiturage ou les transports collectifs et actifs. Avant de prendre la route, consultez québec511.info. Un message du gouvernement du Québec.
Si je te dis bière de micro et pizza, ça te donne le goût, hein? Du mardi au dimanche, ça se passe à l'Emporium. Avec une variété de bières brassées sur place et des pizzas cuites au four à bière rotative, l'Emporium, c'est la place pour une soirée en chum. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
Un an de lock-out au port de Québec parce que les débardeurs refusent de continuer de travailler 76 heures semaine. L'industrie maritime doit s'adapter. Vous êtes tanné d'en entendre parler? Imaginez si vous le viviez. Ce message est payé par le SCFP.
Lorsque vous êtes au volant du nouveau Kia Sportage, le monde semble disparaître autour de vous. Avec jusqu'à 839 km d'autonomie en mode hybride et des technologies de sécurité comme l'assistance intelligente de stationnement télécommandée, le Kia Sportage vous offre une expérience de conduite centrée sur vous. Disponible en version essence, hybride et hybride rechargeable. Achetez votre Kia Sportage dès aujourd'hui. Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Mark Zuckerberg trippe tellement sur les arts martiaux mixtes qu'il a essayé de faire une jambette à Boulevard sur Facebook et Instagram. Vous ne trouvez plus sur ces plateformes? Pas de trouble. Pour rester informé sur ce qui se passe à Boulevard, l'app Boulevard 102.1, l'infolettre, TikTok, YouTube, X, c'est l'affaire qui s'appelait Twitter, et le BLVD.fr. Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec. J'espère que ça va bien. On a eu un premier segment tantôt avec un journaliste sportif. On va quitter le merveilleux monde sportif. Maintenant, on s'en va avec dans le merveilleux monde de Claude Quirion, un gars hyper sympathique que je vous ai présenté dans mes débuts ici à Boulevard. Je pense que c'était au mois de novembre ou au mois de décembre dernier. Il avait fait énormément réagir. Les gens l'avaient beaucoup apprécié. Donc, je l'avais laissé sur ma liste de collaborateurs. Puis j'ai communiqué avec lui dans les dernier jour pour qu'on puisse se réserver un petit moment pour jaser. Et c'est le cas ce soir. Je vous présente Claude Quirion, qui est conférencier, un gars hyper sympathique. Salut Claude!
Hey, salut, salut Yannick, comment est-ce que tu vas?
Ça va très bien. On est par Messenger présentement, donc juste dire aux auditeurs, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sans aucun problème. Puis je vais tenter de réajuster le son, mais d'après moi, ça devrait bien aller, mon cher Claude.
Ouais, tu m'entends comme fou, oui.
Je t'entends très bien. Toi, t'es conférencier depuis quand?
Hey, tabarouette. Moi, j'ai une affaire. Je pense que quand on était en business pendant 23 ans, je pense que la piqûre de la communication, elle a commencé là, mais je dirais faire le job comme conférencier. J'aime pas le titre, mais bon, je dirais depuis 2015-2014, ouais, même plus que ça, vois-tu. À côté de ça, depuis 2000, vois-tu, j'ai arrêté de consommer. J'ai fait beaucoup de bénévoles, moi, avec les gens en phase terminale, les personnes atteintes du cancer, les personnes âgées.
Ouais.
Et j'ai toujours eu un lien côté relation d'aide, mais dire que je fais des conférences depuis 2015, là, que... Mais je suis ouvert là-dedans. Là, pis,
Ça fait depuis 2015. Mais t'as été en affaires pendant combien d'années? Puis c'était dans quel domaine, ça?
Moi, j'étais 23 ans en business. J'étais dans le vêtement corporatif puis dans les articles promotionnels.
OK.
Tout ce que j'ai touché du monsieur, madame, tout le monde, marketing. Là, j'ai eu deux vies, moi. Ma première vie, quand j'ai commencé jusqu'en 2000, quand je consommais. Puis j'en parle parce que je touche des maisons de thérapie puis je travaille là-dedans. J'ai été dans la substance de la cocaïne, la drogue de performance. On s'entend-tu dans la vente, sa route? Écoute, il n'y a pas de limite. Là. Le gars disait non, puis c'est de valeur. Le voisin payait pour lui. Là. Il n'aurait pas dû dire non. C'était mon côté. Puis 2000, quand j'ai arrêté de consommer, j'ai poursuivi.
Okay.
J'ai vendu en 2010. Ouais. J'ai vendu en 2010.
T'as consommé pendant combien d'années, Claude?
20 à la 33, 14 ans.
14 ans.
Ouais, puis il va dire, ceux qui m'écoutent, là, il y en a sûrement un qui touche à la cocaïne, puis il va dire que ça arrête pas, on n'est pas capable. Ben, regarde, appelle-moi, je fais du coup. Et quand je connais la game, là, je travaille dans les maisons de thérapie, je connais partout la job. C'est une dépendance, c'est une drogue de choix, une drogue de performance. Sauf que, je me rappelle, je compte une anecdote, puis le monde qui m'écoute, je commençais par des week-ends, ça pouvait me coûter 40$, mettons, pour un week-end au début. Tu sais, c'est comme. Mais à long terme, l'élastique. Puis il m'a dit, en affaire, à la fin, j'étais rendu à 1 500$ par jour.
Et tabarouette, 1 500$ par jour de drogue?
Ah, oui, écoute, c'était non-stop. C'est en 2000, moi, j'ai eu une grosse. Tu sais, quand on dit, j'étais en thérapie, puis moi, je me sentais mieux que les autres, pas besoin des autres. Mais là, à un moment donné, j'ai décidé d'écouter, faire le meilleur, puis arrêter de me prendre pour le nombre du monde. Puis de faire ce qu'il y a à faire. Puis, vois-tu, ça fait 23 ans que j'ai arrêté de consommer.
OK. Mais en prenant de la dope, tu sais, on va se le dire, la coke, ça donne une certaine performance là, au niveau du cerveau. Du moins, on a l'impression que ça nous donne une performance. Puis ça nous aide à travailler encore plus. Tu avais cette impression-là que tu te considérais comme meilleur que les autres?
Ouais, mais c'est une bonne question, Yannick. J'aime ça. Parce que quand j'ai commencé sa route, à 19 ans, j'étais gêné. Moi, versus les abus que j'ai connus jeunes, abus sexuels, j'étais comme un peu peur du rejet, puis peur du non, le fameux non. Puis, fait que je me retardais tout le temps pour faire beaucoup de procrastination. Je rentrais pas chez les clients. Moi, je vendais des chandails, des calottes, des jackets, du vêtement avec des logos là, pour les compagnies. Les gars de troc, moi, j'étais ma clientèle. Puis tout, ouais. Bon. Fait qu'à un moment donné, j'ai connu ça dans un bar, la drogue, la coke et le tabac. Ouais. Moi, dire en affaire, écoute, il n'y avait plus de gêne, il n'y avait plus rien, fuck out. Je rentrais partout, je pouvais être trois jours debout sans dormir, sans manger. Les soirs, écoute, c'était les kiosques de Marcopus. Et là, tu ressens un sentiment que t'as de puissance, de pouvoir. Et moi, ben, j'ai comme connu l'enfant, j'ai baigné dans le d'être admiré par rapport au sport. Fait que, écoute, j'avais le goût, comme si je suis Dieu. Moi, là, je suis les grosses bagues en or, puis les chaînes, puis écoute, c'était. Mais bon, tu passes à côté de quelque chose, j'ai pas été fin à mes employés. Moi, là, j'étais vraiment un homme dur. Ben, écoute, j'ai eu beaucoup d'années à me pardonner là-dedans. Hein. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable. Pour ça que. Les conférences que je donne dans les entreprises, c'est pas noir au travail, je connais la game, j'ai appris ce que c'est, les pièges, l'ego, l'orgueil, le lien d'appartenance, il y a plein de compagnies qui m'appellent, qui me disent, là, viendras-tu me donner ça, un petit pushing à ma gang, une douzaine, ben, pas de problème, on va y aller, tu sais.
Okay, mais en même temps, c'est un cercle vicieux parce que, bon, t'étais jeune à cette époque-là, t'étais un peu gêné, tu commences à prendre de la dope, puis là, ça te donne comme un certain pouvoir parce que là, les masques tombent, t'es capable de jaser. Au lieu de travailler 8 heures par jour, t'étais capable de travailler 16 heures par jour, donc l'argent rentrait plus que quand tu faisais juste 8 heures par jour, mais ta consommation devait augmenter pour pouvoir être aussi performant. Écoute, tu me parles de 1 000 à 1 500 piastres de poudre par jour. Je suis pas un spécialiste des
mathématiques, là, mais on est dans le 3, 4, 500 000 par année. Fait que fallait tu vire en sacrifice là, pour être capable de t'en mettre autant dans le nez. Puis là, ben, si tu arrêtes d'en prendre, t'as l'impression que tu seras plus aussi performant. Fait que de te sortir de ça, ça a dû être un enfer. Là.
Bien, puis quand je parle de 1015, je pourrais dire que ça a été mes deux dernières années, parce que ça monte progressivement. Hein, ça monte. Mais à la fin, il n'y avait plus d'effet. Je me donnais tout le temps. Mais moi, j'ai eu la grâce. T'sais. Moi, je me rappelle, j'allais en thérapie. Puis ça, la gang qui m'écoute, si le gars m'écoute. Puis à chaque fois que je rentrais en thérapie, parce que j'étais de 97 à 2000 à rechuter, j'ai fait quoi, 4-5 thérapies. Dès que je rentrais à la maison de thérapie, le goût partait. Okay. J'avais pas envie. Puis j'ai appris chez nous, tout le stress, la pression, la clientèle, j'ai changé ma clientèle, puis le sevrage. Mais en même temps, ben j'ai changé, j'ai réussi avec tout mon cheminement personnel, mes week-ends de guérison intérieure, mon thérapeute, les meetings que j'ai faits. J'ai dû avoir un nouveau mode de vie. T'sais. J'ai avoué que j'étais alcoolique, toxicomane. Parce que moi, à travers ça, je prenais 26 onces de cognac, puis en gros, là, c'était pas long.
Et
tabac. Chris m'a dit en affaire, il rentrait, puis là, tu pouvais être 3 gavots sur la brosse, puis après ça, le lundi matin ou mardi, tu rentrais, puis là, tu collais une poitrine de poulet à 10 h le matin, il voulait qu'elle crie. C'est quoi, tu viens? C'était tout mêlé, c'est bon.
T'étais-tu quand même fiable? T'étais-tu un gars fiable à ce moment-là ou ben, tu mentais, tu faisais tout pour essayer de t'en sortir?
Très, très, très fiable. Moi, je faisais affaire avec des clients comme Bombardier, Domtar, Cascade, Transport Couture d'Embauche, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, les Moulins Assis, Carrier-Bégin, Richard Carrier, Escogan, écoute, j'en nommerais des compagnies CSN, CSST, mais j'étais un gars fiable. Parce que, tu sais, fiable parce que chez nous, mon père, c'est un alcoolique, mon grand-père, sauf que du monde d'affaires. Pas en affaires, là. J'étais un homme d'affaires. Moi. Fait que moi, ma parole, là, puis les livraisons, puis les respects, pis,
ouais.
Sauf que pour mes employés, écoute, j'étais hyper exigeant, écoute, ça n'a pas de crise de bon sens. Mais c'est pour ça que j'ai gardé une clientèle, que ça me coûtait cher à l'ado, puis je ne l'ai pas fronté, je l'ai payé, j'en faisais. Puis j'avais des kiosques à Marco-Opus à travers ça, là, que je vendais du linge, puis des plaques d'auto de ligne nationale, puis t'engages des filles avec ceux qui sont plus garnis par la vie, là, en avant, là, qu'on appelle. Là.
Oh, oh, oui, je sais exactement de quoi tu parles.
Ouais. Ça partait à D, là. A, B, C, non, mais D, D, tiens, c'était pas pris. Là, on pouvait les engager. On faisait des évaluations, là. Mon chum, ils engageaient C, non, A, non, D, D, OK, amène-la. Mais tu sais, on avait ça, ça vend mieux. On sait pas, les gars arrêtent plus souvent.
Ouais. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure.
Ça.
Oui, c'est sûr.
Moins ça,
ouais, c'est sûr que les dames devaient peut-être un peu moins se présenter, mais je...
J'étais un gars fiable, honnêtement, parce que j'aimais ça. Puis
Est-ce que les gens de ton entourage, Claude, étaient capables de détecter que tu étais un alcoolique toxicomane ou parce que tu étais fonctionnel puis tu faisais énormément d'argent, ils se rendaient compte de rien?
Mais je pense que j'avais pas de monde à part un, ils ne savaient pas c'était quoi. En 97, quand j'ai fait ma thérapie, que je lui ai avoué, tu sais, que là, j'ai dit, je suis plus capable, mon corps avançait plus. Écoute, j'étais comme. Puis, un déclic. Puis, moi, j'ai la foi, hein. J'ai toujours cru en Dieu. Puis, ma mère était décédée, elle, en 2000. Ouais. En 96, excuse. Puis, là, j'ai fait ma thérapie en 97, maison Jean-Lapointe, ça n'a pas marché. Mais j'avais la foi. Puis, en 2000, là, je me rappelle, j'ai rentré, j'étais dans le cimetière, j'étais assis à pied de tombale, puis j'ai dit, puis, le monde va m'écouter. Puis c'est vrai qu'il y en a d'autres alcooliques toxicomanes qui ont eu cette grâce-là. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, moi, je suis plus capable de consommer, puis je veux pas, puis je veux arrêter, je suis pas capable d'arrêter, puis je veux plus consommer. J'ai eu la grâce, moi, Yannick, en 2000, le 1er juillet, 2 juillet, le goût de la coke et du cognac n'est jamais revenu, ça fait 23 ans. Il n'est jamais revenu de ma vie.
Non.
Le goût est disparu comme ça. Mais par contre, la dépendance affective n'est pas disparue. Elle a rempliré.
Ben ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça. Ben j'aimerais ça en parler de ça parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vivent peut-être une certaine problématique, que ce soit avec l'alcool ou la drogue. T'as-tu l'impression que ton entourage, tu sais, que tu t'étais fait là, en faisant de la drogue, en faisant de l'argent, en laissant tomber tes masques, tu jasais avec tout le monde, quand t'es revenu le Claude Quirion normal, y a-tu des gens dans ton entourage qui t'ont laissé tomber?
Moi, je dirais plutôt moi qui ai laissé, parce que moi, je payais pour avoir du monde, tu sais.
Toi, tu payes, OK.
J'entrais dans un bar, je payais la traite à tout le monde, donnais des calottes à tout le monde, puis gars de musique à 3 heures, quand je disais que je m'en vais, non, t'en vas pas, toi. C'est moi qui paye, tu vas rester jusqu'à temps. Fait que, il y avait, fait que mes amis, j'en avais pas. Moi, j'avais pas de monde dans mon environnement.
Je comprends.
Mes employés, puis tout. Fait que c'est moi qui ai dû changer. J'ai tout arrêté. J'ai vendu toutes les kiosques à marché aux puces. Tu sais, la vie a changé parce que j'avais un club de danseuses, puis tu sais, je pense à ça. Là. Aujourd'hui, je fais du bénévole avec les personnes âgées. On s'entend-tu que c'est pas la même gravité? Tu sais, ça a changé de place. Fait que c'est pour ça que tout peut être possible, tout peut être possible de changer.
Ouais.
Mais j'ai tout changé mon mode de vie, changé ma clientèle, laissé tomber des commerces. Et là, je me suis impliqué au niveau du mode de vie qui est, moi, faire les meetings, des week-ends de guérison, lire, faire des étapes. T'sais, mais j'aimais ça. Mais le mal de vivre restait là, là. Mes employés, là, j'étais pas tout le temps fin, pareil, parce que ma peur, là, je la vis, là. J'étais jeune, là. Puis le rejet, puis la douleur, puis l'angoisse, puis l'anxiété, puis la peur de déplaire, c'est tout à jeune, ça, là. Ça, quand t'es gelé, tu le sens pas. Ça, c'est un autre mode, c'est une autre façon de vivre, ça, là. C'est ça qui fait mal que le monde qui rechute. Mais c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. Faites pas ça tout seul, là. Essayez-les pas tout seul, ça marche pas. C'est une maladie, la gang. C'est une maladie, l'alcoolisme. C'est une maladie qu'on a de la misère à gérer nos émotions. C'est trop fort.
Puis pourquoi t'as décidé, Claude, de redonner, de faire des conférences, puis d'être coach, puis d'aller dans des maisons de thérapie, des maisons de transition pour parler de ton histoire, puis pour donner peut-être des outils pour que les gars puis les filles qui t'écoutent puissent mettre ça dans leur boîte à outils, puis peut-être être, être capable de faire face à l'adversité?
Je vais être honnête, puis c'est bon ta question. Je l'ai faite dans deux façons. Quand j'ai rentré là-dedans, j'ai voulu de la reconnaissance. J'étais dans le sauveur à côté.
Fait que tu le faisais pour les mauvaises raisons.
Mauvaise raison, être admiré, être impressionnant, puis hey, le gars, puis j'ai fait ça en masse, tu sais, j'ai avoué que, mais je souffrais énormément parce que t'es toujours en dépense, tu dépends du regard des autres, on t'aime, je m'aime, tu m'aimes pas, je m'aime pas, tu me trouves bon, je suis bon, et j'ai dû à un moment donné cesser cette souffrance-là parce que j'ai appris ça jeune, moi, mon existence, mon identité, mon amour à moi, là, ma fierté dépend de ce que je vais vous offrir. De ce que je fais, mes buts, jouer au hockey, gagner au pool, être meilleur au baseball, meilleur frappeur, bon, blablabla. Mais quand j'ai perdu ça, quand t'es vedette ou t'es aimé bien, bien gros, puis qu'il arrive un meilleur, tu perds tout. Fait que j'ai continué là-dedans quand j'ai commencé dans le relation d'aide, puis je me suis fait mal. Puis à un moment donné, il y a des valeurs qui ont changé. J'ai trouvé une identité. T'sais, c'est ça qui est important quand t'arrêtes de consommer. Moi, le Claude, là, j'ai trouvé une identité comme homme. Versus le gars qui est conférencier. Fait que quand je travaille, mon besoin, c'est plus mon message que je passe. Je passe ce message. Le message, donc, quand je parle, qui est la vie. Mais moi, j'ai ma vérité, toi, tu as la sienne, l'autre, tu as... J'ai pas la vérité, j'ai pas la solution. Je laisse un message, puis en même temps, moi, ça m'aide dans ta barouette, là, parce que je chemine là-dedans, moi, Yannick, là. Il y a des gens qui me confrontent, là, puis moi, ça m'emmène à... Puis j'aime ça, parce que c'est devenu une mission pour moi. Moi, j'étais à la retraite. C'est devenu une passion, mais une mission. Redonner pour moi, c'est beau de voir quelqu'un qui s'élève et qui décide de se prendre en main. Puis moi, les hommes que j'accompagne, beaucoup, ils ont peur. Puis les gars, ça joue à leur ego au côté. Puis arrêtez de jouer. Moi, les gars à cravate qui gagnent 2 millions par année ou toi qui vire, tu mens. Ça me crise bien. Ils m'ont parlé aussi bien avec lui qu'un gars de prison ou un gars de la rue. Là. Il y a un enfant intérieur qui est blessé comme tout le monde. Puis peut-être qu'il est tanné de consommer ou bien non, de jouer dans l'apparence puis dans l'image. Mais c'est quoi qu'on cherche, Yannick? Aimer pas être aimé, tabarouette.
Tu souffres-tu encore, Claude, des fois?
Ben oui.
Ouais.
Ben oui, écoute, puis ça, écoute, le monde dit, hey, comment ça? Je suis pas un robot, là. Moi, tout, il faut avoir peur. Des fois, quand je fais une conférence, là, j'ai toujours une peur en commençant. Et je veux être correct, il faut que je me parle. Là, je parle je prie, ou ben non, je parle à ma chum, ou je vais vivre des crises d'angoisse, ou je me mets dans le sabotage. Tu sais, j'ai fait une conférence samedi dans Beauce. Puis je suis revenu, j'ai pogné un craving de... Ah, je suis pas correct. Quand je parle d'un craving, c'est pas de consommer. Il me semble que j'ai pas... Là, je tombe dans l'auto-saboteur. Là, il faut que je me parle. Là, j'appelle ma chum, là, je me juge. Mais oui, je suis un humain.
Oui, puis ça vient d'où, ça, cet auto-sabotage-là? Parce que j'ai l'impression que chaque humain a ça. Une portion en lui de... T'es pas assez performant, tu devrais peut-être faire ça. Mon Dieu, tu n'as pas bien parlé à cette personne-là, tu devrais faire attention. Tu sais, on a comme une voix qui est à côté de nous, qui nous critique constamment, puis c'est tout le temps négatif. C'est bien rare que c'est une petite voix qui dit « Hey, continue comme ça, t'es beau, t'es fin, t'es capable. » Pourquoi on est attiré autant par cette petite voix négative-là qui nous détruit un peu? C'est-tu... T'sais, je sais pas, moi, je j'ai pas de croyance, Claude, là, tu vas peut-être trouver ça triste, là, mais j'en ai pas de croyance, mais je me dis, c'est-tu biologiquement qu'on a ça, cette autocritique-là constamment, qui nous tape constamment sur la tête?
Ben, j'aime ça ce que tu dis, parce que, tu sais, quand t'as été rejeté tout jeune, ou ton père ou ta mère qui te critiquait, ou ben non, qui te comparait, sais, t'as grandi ou ton grand-père ou à l'école, t'as été intimidé, t'as été humilié, ou que tu prenais pas de place, que t'as manqué d'amour, que tu. Bon. Fait que la peur aujourd'hui d'être du rejet, on n'aime pas ça. Moi, en tout cas, moi, là, j'aime pas ça quand quelqu'un m'aime pas. Je suis capable de gérer ça, mais je suis pas. Il n'y a pas personne qui va dire que quand on est fier de soi, mais je suis capable de vivre. Sauf que la peur du rejet, ça fait mal. Pas la peur, le rejet, ça fait mal. L'indifférence, ça fait mal. L'abandon, ça fait mal.
Ouais.
Se faire juger, on n'aime pas ça. Fait qu'on se le fait à soi-même.
Est-ce quand ça nous arrive, Claude, ça nous arrive-tu avec des gens qu'on connaît à peine? Parce que, tu sais, moi, par le métier que je fais, tu comprends que j'ai une certaine désensibilisation, là, et je comprends que les gens ne peuvent pas nécessairement penser comme moi, ou encore par rapport à un sujet de l'actualité, ça se peut que qu'il soit complètement différent, qu'il soit à l'opposé, qu'il pense totalement le contraire. J'aime beaucoup les gens qui vont me dire, « Hey, Yann, tu sais quoi, j'ai entendu tes arguments par rapport, je sais pas moi, à Joe Biden ou Donald Trump, puis je suis pas du tout d'accord avec toi, mais tu sais, j'aimerais ça jaser. » Moi, ces gens-là, je les adore, mais des gens qui ne t'aiment pas sans prendre la peine de te connaître, on dirait que moi, si ces gens-là me détestent, c'est pas grave, tu sais. Mais s'il y a des gens que je respecte, Claude, toi, je te respecte, puis tu me dis, « Yann, j'ai jasé avec toi pendant une heure, là, je t'aime pas du tout, t'es pas une bonne personne, puis tu t'en vas », ça, on dirait que ça va être plus dur pour moi parce que j'avais une forme de respect pour toi. Tu sais, je trouvais que tu étais une bonne personne. Puis si une bonne personne me juge sévèrement puis s'éloigne de moi, ça, Claude, ça fait mal, là. Plus que des inconnus qui nous disent « Toi, t'es lettre, tu pues, ta blonde est lettre, là. » Tu sais, ça me dérange moins, là.
Mais tu as donné un bon point. Tu sais, quand la personne, les gens autour de soi, là, qui sont dans le non-dit, là, qui sont pas, puis qui t'aiment ou qui t'aiment moins, ou bien donc que tu sens que t'es pas apprécié, puis qu'ils nomment pas, ça fait bien plus mal. Tandis que si tu le dis, tu sais de quoi l'autre parle, OK? Mm. Mais souvent, qu'est-ce qu'on se demande? Qu'est-ce qu'on se demande à soi-même? C'est la perfection. On est dans la perfection. On veut être parfait, tabarouette. On se met une pression énorme envers soi.
Ouais.
On est dans un monde de performance. On est dans un monde de perfection. Le monde, ils sont dans l'exigence envers soi. À cause de quoi, tu penses? Parce que nous-mêmes, on s'aime pas, on n'aime pas qui on est, on n'aime pas qu'on a des défauts. Moi, c'est de même que j'ai commencé à m'aimer, à d'accepter, puis je t'en parle, ça me fait un frisson dans la colonne, merci mon Dieu, c'est que j'ai accepté que je peux pas, dans une conférence, livrer tout ce que les gens aimeraient entendre. Je peux pas aider tout le monde dans ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait mon maximum. J'ai peut-être déclenché, j'ai peut-être fait, peu importe en dedans de moi, mais je suis capable, moi, quand je me couche, je fais ce que je peux, puis j'ai encore des blessures. Fait quelqu'un qui m'écoute, ben oui, fais juste l'accueillir. T'aimes pas ça, mais dans le fond de toi-même, est-ce que tu t'en demandes trop, Colin? De quoi t'as pas? Pourquoi tu t'exiges tant la perfection envers toi? On a tous des défauts. On a tous des faiblesses. On a tous des blessures. Moi, le monde qui me dit, j'ai guéri mes blessures. On ne guérit pas des blessures. On les protège.
Mm-hmm.
Hein? On fait attention à qui on va fréquenter. Parce que les blessures, on apprend à vivre avec. On va mettre un baume. Mais c'est parce qu'en plus de ça, les blessures de l'âme qu'on parle, rejet, humiliation, intimidation, trahison, c'est génétique. Nos parents nous ont transmis ça, les grands-parents, les arrière-grands-parents. On doit dealer avec. Mais il faut faire attention. C'est pour ça que je dis aux gens, qui vous fréquentez, soyez prudents dans qui vous fréquentez. Essayez de protéger. Puis dévoile-toi à l'autre.
Quand tu fais le tour des maisons de thérapie puis des maisons de transition avec ta conférence « Vie ta vie », tu leur parles de quoi? Puis pourquoi le titre de cette conférence-là s'appelle « Vie ta vie »?
C'est parce que les. Ben, en tout cas, je parle de la maison de thérapie, parce que aussi, des fois, la maison de thérapie, c'est pas la substance, mais c'est la dépendance affective, hein, qui est l'origine. La dépendance affective, le monde dit, ils savent pas c'est quoi, mais c'est des besoins qui n'ont pas été comblés à l'enfance, qui en a manqué, puis qu'on sait pas, puis qu'on pense qu'on les a tout eus, mais des fois, c'est inconscient. On développe des séquelles. Fait, moi, quand je dis vie ta vie, c'est arriver à dire que moi, là, je vais vivre avec mes couleurs, ouais, avec mes erreurs, je vais vivre avec mon passé. Je vais faire en sorte que de regarder la personne que je peux devenir, la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est difficile d'arriver à l'étape de vivre sa vie, parce que vivre ta vie, souvent, les gens, ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas aller toucher qu'est-ce qui nous a fait mal par le passé. La honte, les regrets, les remords. Tu sais, moi, je vois des femmes, souvent, ou un homme, prends un homme, mettons qu'il était abusé jeune, ils ne se pardonnent pas. il a l'impression qu'il l'a voulu ou c'est de sa faute, ben non, il en veut à l'autre. Oui, mais je comprends, mais tu avais 7 ans ou 8 ans. La femme qui était dans une relation de violence conjugale, elle avait peur, pauvre elle, puis elle s'en veut peut-être d'avoir enduré ça. Hey, tu avais peur puis tu étais menacée, fait que donne-toi une chance, Colin.
Oui.
Arrête. Pis c'est là que je trouve que les gens, on se donne trop ça dur. Mais moi, ça a pris des années, Yannick, avant d'accepter, à force de vouloir accepter, vous ne voulez pas dire l'approuver, là. Je voulais pas dire que j'étais d'accord avec. Mais quand je dis aux gens, accepte-les, ça veut pas dire que comme tu l'approuves, sauf que tu peux pas le changer. Mais tu peux vraiment faire en sorte qu'il y ait moins d'impact sur ton moment présent. Le monde traîne des blessures, il traîne des expériences. Puis là, ils se développent toutes sortes de mécanismes de défense. Puis là, ben, ils ont peur de l'amour, ils se privent de l'amour, ils prennent plus de place, ils jouent des games, ils sont dans le silence, ils sont dans le... Hey, la vie, là, vivre ta vie, c'est faut d'avoir du fun, d'avoir du bonheur, d'avoir du plaisir, de goûter à l'amour, de ressentir tes émotions, que ce soit la peine, que ce soit la peur, la colère. La colère de monde, surtout les femmes. Ah, ben j'en ai pas de colère. Là, je lui dis, on parle pas d'agressivité, là. La colère, c'est une émotion ferme. C'est une expression qui fait que c'est comme ça. Mm-hmm. Fait que c'est, on n'ose pas vivre qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui nous écoute aujourd'hui est sur la route, ben, elle est au bureau. Comment tu te sens en ce moment? Ferme-toi les yeux, puis réponds ça à Yann, pour ceux qui sont là, là s'il y en a qui veulent écrire. Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es-tu heureux en ce moment? T'as-tu de la peine? Tu te sens-tu stressé? Tu te sens-tu fatigué? Écris ça, puis... Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça?
Tu sais, parfois, Claude, on peut avoir des petits défauts qu'on traîne depuis des années, puis il n'y a pas de raison à ça. Mais parfois, on peut avoir vécu des situations qui sont ignobles, qui ont déterminé un peu la personne qu'on allait devenir un peu plus tard. Tu sais, tu parlais d'agression sexuelle tantôt. Je veux dire, moi, j'ai jamais vécu d'agression sexuelle, mais il y a des gens qui, en raison de multiples agressions sexuelles, sont devenus très réfractaires aux individus, aux hommes ou aux femmes. Quelle est l'importance quand on est ce genre de personnes-là qui avons vécu des choses pas vraiment évidentes quand on était jeune en raison de d'autres personnes? Quelle est l'importance du pardon? Okay? Puis je t'explique pourquoi je te parle de ça. Là. À un moment donné, on était au palais de justice. Je n'étais pas là. C'était des journalistes qui étaient au palais de justice de Québec. Puis la dame a accordé une entrevue en disant « Moi, j'ai pardonné à cet homme-là qui m'a fait tant de mal. Je ne le fais pas pour lui, je le fais pour moi. » Quelle est l'importance du pardon dans justement le débuter une nouvelle vie?
Mais c'est parce que quand t'entretiens de la colère malsaine, de la rage, de la rancune, de la haine, du ressentiment, mais t'as une énergie négative, OK? Fait que tu peux pas être bien avec toi-même, puis tu peux pas avoir confiance aux autres. Et là, tu transfères, tu mets tout le monde pareil. Comme moi, les hommes jeunes, quand j'ai été abusé par deux hommes, ça m'a pris des années avant que je puisse réussir, jusqu'à temps que je décide de dire, moi, là, puis les gens qui m'écoutent, pardonner, ça veut pas dire oublier, là. Pardonner, ça veut pas dire y retourner. Pardonner, ça veut pas dire d'être en relation. C'est d'arrêter de donner du pouvoir à ce monde-là qui t'empêche, toi, d'avancer. T'es comme si tu serais pris, puis eux autres tiennent en arrière de toi une corde, puis te tirent par en arrière. Mais c'est tout, tu peux pas, je te dis pas que, parce que souvent le pardon, il y a deux formes. Il y a le pardon à soi, puis il y a le pardon à l'autre. Mais c'est une étape. C'est pour le pardon, moi, je dis, ça prend de l'aide. Tu peux pas le faire, ça. Ça te prend un thérapeute, ça te prend un coach, ça te prend une fin de semaine de guérison. C'est pas quelque chose que tu vas dire, OK, je pardonne. Parce que moi, là, hey, dans ma tête, pardonner à l'agresseur, c'était comme lui donner, non, hey, moi, j'avais juste envie d'y arracher la tête. Jusqu'à temps que je me dise, OK, pardonner, là, à ce gars-là, c'est pas que je l'aime puis que je vais le voir puis que je vois. Non, puis que j'aimais ça. C'est que je me rends compte que je suis pas capable d'avoir des amis d'hommes. Parce que moi, dans ma tête, les hommes, c'est tous des agresseurs et des hypocrites. C'est pas vrai. Fait que j'ai commencé à me dire, je dois me détacher de cette expérience-là.
Okay. Fait que t'as coupé, avec le pardon, t'as coupé le cordon qui te retenait à ces beaux salauds-là, puis t'as commencé à avancer. Ah, je comprends.
En plein ça. Puis le monde qui me parle de pardon, avant de passer à l'étape du pardon, toutes les émotions, tu as le droit d'y vivre, tu as le droit d'y en vouloir, tu as le droit de t'en vouloir, tu as le droit, c'est prendre le temps d'y vivre. Mais ça te prend quelqu'un qui va t'écouter, pas celui qui va dire, mais passe à d'autres choses. Ça, là, ce monde-là, t'as pas besoin de ça dans ta vie.
Claude Quirion, le temps passe vite. T'es conférencier, tu fais des conférences dans des maisons de thérapie, des maisons de transition. On invite les gens, d'ailleurs, à communiquer avec toi s'ils ont besoin de ce type de conférences-là. Tu donnes une conférence comme Vie ta vie, tu viens d'en parler. Tu donnes des conférences aussi dans les entreprises, c'est ça?
Oui, s'épanouir au travail, oui,
exact. S'épanouir au travail, puis ça, c'est en raison du fait que tu as été longtemps en affaires, puis t'as fait une conférence qui est en lien avec ça. Puis tu vas être à Québec en octobre?
Oui, bien c'est ça, j'ai sorti une formule, la gang qui sont à l'écoute, je fais des conférences à domicile. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai bâti un atelier conférence qui est un samedi après-midi. C'est qu'on se met en équipe de deux sur place, puis on fait des exercices toute l'après-midi, vraiment pour monter à la conscience. On parle, on va faire un exercice avec l'enfant intérieur, on va faire les lettres pour les pardons, les divisions relationnelles, les hérités, ce qu'on a hérité de nos parents, des comprendre. Après ça, comment, une qui marche beaucoup, c'est je me sens et comment je veux être aimé. C'est toute l'après-midi, c'est une ouverture de réponse qu'après ça, tu peux être à l'action. Mais c'est ça qui l'impact.
J'aime
c'est
ça.
Pas cher parce que je suis à peut-être 30-35 piastres chaque personne. Ils se mettent une dizaine, une douzaine de personnes, on réunit ça là, puis on rase l'après-midi, mon tu vois.
C'est ça, exact. Les gens font comment pour communiquer avec toi, Claude?
Ah, bien, ils peuvent. Mon numéro de téléphone, si jamais ils veulent m'appeler, 819-571-8161. Et d'un, et ou soit sur ma page Claude Quirion Conférencier Facebook, ou tu vas sur podcast YouTube, j'ai plein de capsules, la gang. Si tu veux écouter, j'en ai full, toutes sortes de capsules de différents sujets, 5, 18, t'en vas en truck, t'en vas encore, t'es chez vous, tu mets ça dans ton appui. Puis écoute ça, tu vas voir qu'il y a du gaz.
Fait qu'on tape Claude Quirion, ben on va nécessairement tomber sur toi.
Ouais, ouais.
Claude, toujours un plaisir de jaser avec toi. On se donne rendez-vous dans quelques semaines, mon ami, puis on sortira une couple de sujets, puis on jasera comme si on était sur le bord d'un feu avec une petite Coors Light des mains.
Toi, tu prendras une Coors Light pour prendre un café, parce que moi, je prends une Coors Light, je suis là pour 6 mois au bord du feu.
Salut, Claude.
Bye, bye.
Wow, Claude Quirion, un gars hyper sympathique avec qui j'aime jaser une fois de temps en temps. Hey, je vous souhaite de passer une belle soirée. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Puis nous, ben, on se retrouve demain matin, sans faute, à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Bon, demain midi, tiens, parce qu'il y en a qui se lèvent un peu plus tôt. Fait que c'est Marceau le midi à 11h. Salut, bye-bye.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Découvrez les restaurants Couteau, Pokéball, Tartare, Décadent, Cocktail et Vin en salle à manger et take-out. Couteau Beauport, Neuchâtel et Saint-Joseph, les plus grosses portions de tartare en ville.
En quête d'aventure, partez à la découverte du Mazda CX-50. Conçu pour affronter presque tous les terrains avec sa traction intégrale iActive de série, le Mazda CX-50 vous offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 3500 livres et tout l'espace de chargement dont vous avez besoin pour partir explorer. En plus, profitez dès maintenant de 2 ans d'essai des services connectés Mazda et de la garantie à kilométrage illimité. Venez vite découvrir le CX-50. L'aventure vous attend chez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Miville, ce sont vos spécialistes en climatisation, chauffage et thermopompe depuis plus de 55 ans. En ce moment, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais à l'achat d'une thermopompe Fujitsu. Que ce soit pour une thermopompe murale ou centrale, Fujitsu fabrique les thermopompes les plus efficaces sur le marché. De plus, obtenez jusqu'à 6 275 $ de subvention et un prêt sur 10 ans sans intérêt avec Maison Verte. Certaines conditions s'appliquent. Miville, le leader au Québec en climatisation et chauffage. Miville.ca.
Après un an de lock-out, le gouvernement doit comprendre qu'il doit adopter une loi anti-briseur de grève. C'est vital. Continuons de le réclamer, parce que les drames humains du lock-out au port de Québec ne doivent jamais se répéter. Un message des débardeurs de Québec payé par le SCFP.
Vous en avez jamais assez de vos animateurs préférés. Réécoutez les meilleurs segments des shows sur le blvd.fm et sur l'application.
Le Patro Rocamadour, c'est une institution au service de la communauté au cœur de Limoilou depuis 75 ans. Le 4 novembre, soyez des nôtres pour célébrer la fin de cette année d'anniversaire. La soirée gala du 75e anniversaire du Patro promet d'être haute en émotion. Soyez parmi nous pour lancer notre prochain 25 ans. Visitez le patro.rock-amadour.qc.ca pour obtenir vos billets. 75 $ pour 75 ans. Merci à nos partenaires, la Caisse des Jardins de Limoilou, TVA, Journal de Québec, Weekend et Boulevard.
Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Pour plus d'efficacité, explorez les options autres que l'urgence. Visitez québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec.
Lorsque vous êtes au volant du nouveau Kia Sportage,
le monde semble disparaître autour de vous. Avec jusqu'à 839 km d'autonomie en mode hybride et des technologies de sécurité comme l'assistance intelligente de stationnement télécommandée, le Kia Sportage vous offre une expérience de conduite centrée sur vous. Disponible en version essence, hybride et hybride rechargeable. Achetez votre Kia Sportage dès aujourd'hui. Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Gene Simmons a dit que le rock était mort.
Unless you're an emo band or rap, you're dead.
Bon, je sais que tu pognes pas le 102.1 dans le 90210, mon Gene, mais il y a toujours l'application Boulevard si tu veux te tenir à jour. Je te confirme qu'il se fait encore du Kiss de mon rock. Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
La face cachée du rock avec Patrick Langlois est présentée par ABBA Extermination. ABBA Extermination, c'est des centaines de commentaires positifs de la part de clients satisfaits. ABBA Extermination, c'est aussi le gagnant du choix du consommateur cette année. Aucun doute pour les insectes, ABBA Extermination, c'est la référence. Estimation gratuite, service garanti. Que ce soit pour fourmis, rongeurs, guêpes, araignées, punaises de lit, avec l'arrivée du froid, les rongeurs et les insectes cherchent à entrer à l'intérieur de la maison. Pour éviter tout problème, demandez dès maintenant un traitement préventif ou contactez ABBA si vous vivez un problème présentement, une entreprise de Québec qui emploie des gens de Québec, 418-666-6667 ou au abbaextermination.ca.
Lorsque le public retourne paisiblement à la maison, la magie continue d'opérer à l'envers du décor. Pat Langlois vous présente les artistes qui œuvrent dans la face cachée du rock.
Présenté par ABBA Extermination. Le froid s'amène, mais les bébites restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite, service garanti. abbaextermination.ca.
À chaque semaine, dans la face cachée du rock, je vous amène à l'envers du décor dans des shows. Parce que oui, on va voir des spectacles, on regarde sur scène, mais autour, il y a une tonne d'employés qui font en sorte que ça roule, ce show-là. Et je suis vraiment content de recevoir un bon ami, Patrick Frenchy-Ouimet.
Yes.
C'est rare que je t'appelle Patrick, d'ailleurs.
C'est très rare. C'est notre première, je pense.
Quand je t'appelle sur ton répondeur, ça dit tout le temps « Vous avez bien joint Patrick », puis je fais tout le temps la même joke. « Oh! » Je dois avoir le mauvais numéro, j'essaie de rejoindre Frenchy. Puis je commence avec ça parce que c'est un petit peu à cause de moi si professionnellement tout le monde t'appelle Frenchy.
Pas mal, oui, je te dirais. 99,9%. Quand on s'avait rencontré la première fois, j'avais été engagé par Simple Plan.
Ouais.
Toi, tu étais là déjà depuis un méchant bout. Puis les gars étaient comme, écoute, on peut pas t'appeler Patrick. Il y a déjà un Patrick numéro un. Puis sur la tournée d'avant, le Warped Tour, les gens m'avaient déjà surnommé Frenchy parce que mon anglais était... t'es pas très, très bon. Puis c'est mon père, on dit, c'est vrai, on t'appelait Frenchy sur le tour.
Oui.
Ton anglais n'est pas encore super bon. Patrick est déjà là. Fait qu'on va t'appeler Frenchy.
Et c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois.
Oui.
On est en 2003, si je me souviens bien.
C'est entre 2001 et 2005.
Oui,
parce que j'ai fait 5 Warped Tour de 2001 à 2005. C'est mon père, était là quelques fois un peu. Mais solidement, je te dirais 2003, 2004, puis 2005, on a commencé à travailler ensemble.
Première fois qu'on se rencontre, bien, t'es un Québécois. On est content de se voir parce que sur la tournée, ben, c'est comme un cirque qui se promène aux États-Unis.
C'est des centaines et des centaines de bandes, d'employés. Je te dirais que c'est pas loin du 300-400 personnes qui travaillent cette tournée-là, incluant les artistes. Puis on est les seuls Keb sur cette tournée-là.
Puis là, 20 ans plus tard, on dit, ben oui, on s'est rencontrés, Frenchy travaillait sur le Warped Tour, mais tu travaillais pas en tant que tech du tout encore.
Non, pas du tout. Je faisais tout. Je vendais des bijoux, j'aidais à monter les tentes. Je n'étais pas vraiment payé non plus.
Non.
Mais j'étais là avec les meilleurs bands sur la planète, toutes mes bands préférées. Puis je pense que sans le savoir, c'est ça que je voulais faire de la tournée, mais c'était vraiment innocemment que je me suis ramassé là-dedans sur un road trip avec des chums. Puis on a sneaké in dans le Warped Tour, j'osais avec du monde, fait engager. Puis après ça, j'ai rencontré Simple Plan, puis toi. Puis...
c'était plus une faveur pour un ami. C'est un ami qui avait cette compagnie de bijoux-là, parce que c'était pas comme si tu tripais sur ces bandes-là, puis tu avais le goût de travailler sur le Warped Tour, puis tu t'es trouvé une job pour le faire.
Non, c'est à jaser avec du monde, puis tout. Puis c'était comme, hey, j'ai besoin de quelqu'un là maintenant, peux-tu nous aider? Je suis comme, ben oui. Fait que. Exactement comme ça. Non, c'était pas. J'aspirais pas à vendre des bijoux.
Fait que là, on te rend compte. Évidemment, ben, vous le voyez, c'est assez facile se lier d'amitié avec ce gars-là qui est tellement sympathique. Fait qu'on devient amis. Puis, je veux que tu racontes comment tu as fait la transition de vendre des bijoux sur le Warped Tour à être un technicien de scène. Au Québec, on appelle ça un band gear.
Un band gear, ouais.
Partout dans le monde, on dit un tech.
Un fait tech, stage tech, un gars de backline guy. Drum tech, si tu fais juste un instrument,
guitar ouais. tech. Et ça a commencé comme ça pour toi, drum tech.
Ouais, commencer avec ça, drum tech, c'est... tu sais, à toutes les shows, j'essaie d'aller voir Simple Plan sur le stage du Warped Tour, puis je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui font ça, qui monte le drum à Chuck, les guitares à Pierre, à Seb. Puis là, ce soir, je dis, hey, je veux faire ça, moi. Puis Chuck, il dit, non, tu vends des bijoux. Voyons donc, je joue du drum. Puis oui, je joue du drum depuis que je suis petit. Je suis pas très bon, mais je joue du drum depuis longtemps. Puis bien, j'ai continué à l'achaler à tous les jours, à toutes les semaines, tous les mois. Puis en 2005, il est venu me voir à Salt Lake City, je me rappelle bien. Puis son drum tech du temps, sa femme était bien tannée qu'il fasse de la tournée ou quelque chose comme ça. Puis il a lâché. Fait que Chuck est venu me voir, il a dit, écoute, on s'en va au Brésil puis au Japon. Puis le permis de travail, si on veut en mettre un sur la route avec nous autres, c'est maintenant. On t'asseyerait, on a deux choix avec Bowling for Soup, l'ancien tech qui te traînerait. Si tu verrais que tu pourrais comme monter ça, je dis ben oui, je suis pas trop. Parce qu'il fallait aussi que je fasse les guitares à Sébastien. Puis ouais. ça, pour être honnête, dis-lui pas, mais j'avais jamais touché une guitare de ma vie. Fait que j'ai demandé à un gars sur le tour de venir dans le tour bus, puis de me montrer comment changer des cordes, accorder une guitare. Puis quand je suis arrivé au premier show de Simple Plan, j'ai eu pas trop l'air trop fou, mais le drum, oui, je connaissais ça. Puis les gars ont trippé, puis on a eu beaucoup, beaucoup. Ça fait un début de
carrière.
De carrière, ouais, c'est ça. 20 ans plus tard.
Ce qui est fou, parce que maintenant, quand tu penses à ça, là, puis quand tu regardes ça, tu le réalises, tu as travaillé avec une tonne de bandes, des petits nouveaux, très, très green comme tu étais. C'est pas facile de mettre le pied dans la porte.
Non. Encore, c'est seulement comment qu'on commence. Je sais même pas comment te dire. Il y a des écoles, oui, je pense qu'ils forment ça, mais c'est. C'est vraiment une question de contact, de moment, de tu sais, à cette heure, je sais même pas. Je pourrais même pas te dire. J'ai été très, très chanceux d'être là à la bonne place, de demander, je sais même pas. C'est que j'y repense. Je pourrais même pas penser à le refaire. C'est comme comment tu t'y prends pour approcher un Ben dans un autre pays en plus, puis qui sont déjà très renommés. Ils étaient oui. big, là. Ils sont encore big, là. C'était fou.
Ouais, oui.
Puis qui m'ont pris, qui m'ont donné une chance, puis que j'ai fait ça aussi, là. Crazy.
Fait qu'au début, est-ce que je me trompe ou comme t'accordais la guitare de Seb avec une application?
Ah,
ou avec une petite... Comme tu savais pas comment l'accorder?
Non, je savais pas comment. Non, il y a un tuner là avec... tu suis les cinq lettres puis tout, puis dope for the best. Là,
à ce jour, t'es-tu capable d'accorder une guitare sans tuner?
Non, j'ai pas encore l'oreille. Mais le drum, oui. Le drum, oui. Mais la guitare, non, pas encore. J'ai pas encore l'oreille absolue, mais je pense que je suis rendu à 3-4 accords, là, mais non, je fais aussi les keyboards puis d'autres... on pourra parler avec d'autres artistes. Je fais des instruments assez bizarre, là. Mais non, pas encore capable d'accorder à l'oreille.
Tu as eu finalement une liste d'artistes quand même assez exhaustive avec lesquels tu as travaillé, mais c'est sûr que j'ai pas le choix de commencer avec les années Simple Plan parce qu'on les a vécues ensemble. À quel point maintenant, tu sais, ça devient un petit peu monnaie courante, là. T'sais, tu t'en vas en Espagne tantôt, il y a deux jours, tu étais au Japon. Attraper Frenchie pour le podcast, ça n'a pas été évident. Potentiellement, mon invité le plus difficile à booker parce que tu te promènes à gauche puis à droite. Mais à ce moment-là, rêve de petit gars un petit peu, être avec, surtout avec des Québécois au Brésil, au Japon, un peu partout où on se promenait.
C'était dur à écrou... C'était, ça n'avait aucun sens. Au Brésil, c'est mon plan, c'était des idoles. Je faisais en Asie aussi, puis de pouvoir être là. Tu sais, moi encore, je le réalise vraiment la chance que j'ai eue, puis c'était fou, mais...
Puis je pense qu'on est fait un petit peu de la même façon dans notre ADN. Toi et moi, on veut jamais rien manquer.
Non.
Fait que, tu sais, on se levait tôt le matin pour aller visiter, voir des affaires, puis on se couchait tard le soir parce qu'on voulait avoir le plus de nightlife possible. Ouais. On n'a pas dormi beaucoup dans ces années-là.
On n'a pas dormi. Je me rappelle, les siestes qu'on pouvait faire, c'était à l'aéroport à terre, dans l'avion. On essaie de dormir dans les loges, sur les sofas, dans le jour, mais on a vécu, on a fait bien la fête, puis on a bien voyagé. Ben, vas-y donc.
À quel point est-ce que les choses ont changé? Parce que moi, je l'ai vécu, puis l'industrie de la musique, elle est super bien. Puis je le sais que j'ai été chanceux de vivre les belles années, les années où les compagnies de disques nous amenaient souper. Puis t'étais là aussi, là, c'était pas juste les cinq gars du band. Quand t'étais un crew en tournée, surtout qu'on n'était pas une grosse équipe, Simple Plan, ils gardaient ça quand même très, très...
minimaliste, là.
Ouais, surtout comparativement à d'autres bands, puis tu pourrais nous en parler. On était genre... Cinq gars de band, cinq gars de crew. Fait quand on allait souper, la compagnie disque, elle disait, ben oui, venez-vous-en, là, tu sais. Puis tu pouvais prendre le homard et le steak.
On se faisait payer la traite, ouais. On pouvait manger puis boire pas mal tout ce qu'on voulait.
Fait que comme moi, tu as vécu ces belles années-là, à quel point est-ce que ça a changé que c'est plus aussi le luxe du, tu sais, sex, drugs and rock and roll?
Il n'y a plus grand band qui peut vendre 9 millions d'albums comme Simple Plan l'ont fait, là. Puis oui, ça paraît... ça paraît, mais je pense que les prix des billets, sûrement, tu pourrais dire, les prix des billets ont exactement, ils ont monté beaucoup. Puis c'est sûr que les petits bands vont attendre vraiment, vraiment longtemps avant d'avoir des équipes techniques. Tu vois, là, des bands qui sont quand même bien respectables, comme tu dis, sur des gros stages à Oshiaga, mais ils montent quasiment leur gear tout seul, tu sais.
Ouais.
Parce que c'est bien trop cher, les billets d'avion, on oublie ça, les billets d'avion, l'hôtel, le gaz, comme tu sais, les véhicules. Fait que ça a changé beaucoup. Ouais, il faut vraiment que tu pognes un gros, gros, gros band pour comme que tu vois. Comme un peu comme qu'on avait dans le temps, là, mais sinon les petits bands ils gardent une grosse réserve puis parce que ça coûte cher. Là,
c'est pas évident parce que tu parles d'argent, je veux pas avoir des chiffres en tant que tel, mais t'es quand même bien payé pour quitter la maison. Ça a de l'air le fun, là.
Ouais.
Être en tournée tout le temps, mais quand tu y penses, surtout quand tu arrives à un point où tu as une famille, partir des 10 mois par année, c'est pas évident. Donc relativement bien payé. Puis les plus gros bands sont capables de vous payer même quand ils sont pas en tournée.
Oui. Oui, c'est pas beaucoup sa planète. J'ai eu la chance de. Une couple de bands qui peuvent te mettre sur un retainer. Ouais. Ça veut dire que. Faut que tu sois disponible tout le temps, puis tu peux pas vraiment travailler pour d'autres artistes, tu peux faire des artistes locaux,
ouais.
Locaux, mais non.
Fait que disons, t'as un gros band qui dit, moi, je t'aime beaucoup, cette année, on va peut-être faire de la tournée pendant 9 mois par année, mais je veux pas te perdre.
Ouais.
Parce que si toi, tu pars pour quelqu'un d'autre, puis lui, il part sur, disons, un autre 10 mois, ben peut-être
le
que...
Le timing de te rattraper ces cycles de tournée, ça va être impossible.
Fait exact.
Qu'il y a des bands qui font ça, ouais.
Fait que là, ils te payent un montant... Même si tu es assis chez vous, simplement pour qu'il y ait la priorité sur toi.
Oui, tu peux pas manquer aucun show, tu es payé. Tu es comme sur le payroll de la compagnie, puis tu attends ton billet d'avion pour partir en tournée avec eux.
Fait que ça t'est déjà arrivé, je le sais. Puis après ça, toi, tu arrives au Québec, puis tu te dis quoi, je vais travailler pour des bands d'ici. Fait que c'est comme ça que les trois accords rentrent dans ta vie?
Trois accords aussi, oui. C'est un band que je fais au Québec. C'est quand j'ai la chance d'être ici, puis que le timing marche, parce que c'est des boys incroyables, puis ouais.
On a fait combien de temps ensemble? Toi, Simple Plan, tu dis 2005. Honnêtement, moi, les dates, je les oublie. Moi, j'aurais dit que tu étais avec nous depuis 2003.
Non, j'ai fait 2005 à 2010.
Okay.
Fait que un 5 ans, des plus grosses années puis les plus belles années de Simple Plan.
C'est quoi qui te vient en tête tout de suite? Tu penses à ces 5 années-là, là? Tu sais, tu as quelques moments, j'en ai aussi, là, on va voir si on a les mêmes. Ouais. Mais ce qui ressort tout de suite, tu te dis, hey man, c'était fou parce qu'il est arrivé ça.
Laisse-moi penser. Dis-moi un peu. Mais...
Il y a les voyages.
Ben, je te dirais un safari en Afrique du Sud qu'on a fait. Ouais, ça, c'est vrai.
Ça se dit bien, hein, ça. Dit, hey, attention, tu viens d'échapper à un safari.
Ouais, ouais. Ouais, le Ben nous avait offert un safari à Durban.
Durban.
Une semaine dans un tout inclus, mais dans un safari où on se levait le matin, il y avait des singes sur notre porch. Il y avait des tigres, il y avait des singes qui lançaient des coconuts sur notre cabana pour nous réveiller, pour peut-être qu'on leur donne de la bouffe. Mais puis on a vu des affaires incroyables. Ouais, c'était fou, ça le safari. Mais c'était une tournée parce qu'on ouvrait pour Metallica.
Ouais.
C'est une petite tournée de festival en Afrique du Sud avec 100 000, 150 000 personnes dans la foule.
Moi, c'est une histoire que je raconte souvent, tu sais, genre de détecteur de mensonges, là, je vais te dire deux vérités, un mensonge, puis tu sais, les trois se peuvent pas. Puis c'est tout le temps celle que je sors. Je dis, James Hetfield m'a déjà payé une bière en Afrique du Sud. Tu sais, si James Hetfield qui me paye une bière, c'est pas assez... En Afrique du Sud, ça rajoute juste une couche de « ben non, t'es plein de marde, c'est sûr que c'est pas vrai ». Mais ouais, on était dans le lobby et puis on était en train de prendre une bière. Il est venu s'asseoir avec nous a jasé pendant 20 minutes, une demi-heure. Puis quand on a quitté, on a demandé la facture, puis le garçon a dit « ah non, non, ça a été réglé ». On n'a même pas pu le remercier de nous avoir acheté une bière. Il l'a comme fait en catimini. Ça, pour moi, c'est une histoire qui est comme « OK, ça n'a pas d'allure, tu sais, c'est quoi ma vie ?»
Ça, c'était vrai, c'était très surreal, ça, de faire cette tournée-là. Mais sinon, on n'a pas de où en Amérique du Sud avec Simple Plan. Comme je te dis, c'était des stades, c'était incroyable. Puis si je peux compter cette histoire-là de toi aussi. Là,
vas-y.
Je pense que c'était un show c'était au Sao Paulo, au Rio. C'était dans les je venais de commencer avec eux. Puis tu le sais, là, mais t'étais le sixième membre du groupe. Là, t'étais dans toutes les vidéos, t'étais tout le temps là avec eux. Puis je pense que t'avais pas encore réalisé à quel point peut-être que les fans te connaissaient autant. Puis je me rappelle 100%. T'étais dans là, je t'ai dit, bon les boys, c'est le show bientôt, je vais aller à la merch.
Ouais.
Parce que tu faisais la merch pour le band. Je reviens, je veux essayer de checker mes t-shirts, tout est beau. T'es revenu dans la loge, t'avais plus de chandail. Il te restait, je pense, le collet blanc élastique, puis t'avais plus de bijoux, puis t'as dit, ils t'ont vu dans la foule, puis les fans t'ont amoureusement.
Oh, oui, mais ils sont intenses.
Ils t'ont pris, ils voulaient pas te laisser partir, puis il a fallu que tu te rends à la merch, mais ils ont tout arraché ce que tu avais sur le dos. Puis je pense que c'était là où tu as réalisé que...
Okay, et je me rappelle...
L'Amérique du Sud, c'est crazy, là.
Et c'est le seul pays, l'Amérique du Sud, où les gars de Simple Plan devaient avoir de la sécurité.
Ouais, sortir par la porte d'en arrière.
Oui, rentrer par les cuisines dans l'hôtel. Et puis le gars, il s'appelait Ronaldo. Ça fait cliché, là, le gars de sécurité brésilien qui s'appelait Ronaldo. Mais je me rappelle, je suis revenu en arrière et j'ai dit, je pense que je vais avoir besoin de Ronaldo. Tu sais, comme si moi, j'avais besoin de sécurité pour aller checker des T-shirts.
Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est
ah, non, non, folie furieuse.
Les fans se lançaient devant... Ça, aussi, il y avait une technique, les fans, puis notre chauffeur nous avait expliqué. Les fans avaient une technique quand le band partait, ils se lançaient devant le véhicule pour que le véhicule arrête, puis pour qu'ils puissent réussir à rentrer.
Te rappelles-tu, je... rappelles-tu comment on appelait ça?
Non.
Parce que moi, je m'en rappelle. Non. C'est très drôle parce que, tu sais, il faut s'imaginer la van qui avance, puis il y a plein de monde devant,
zombies,
sur les côtés,
zombies.
Qui cognent. C'est ça.
Ouais.
On disait tout le temps que c'était comme une attaque de zombies.
Ah, c'est ça. Il y en a un qui avait réussi à rentrer par en arrière, à un moment donné, d'ouvrir la valise, mais le chauffeur nous disait que les jeunes se lançaient, il fallait pas arrêter. Puis nous, je me rappelle, Pierre qui crie « Arrête, arrête! »
Tu vas le tuer!
Le chauffeur. Non, 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 si on arrête, c'est la fin. Là. Oh, c'est comme, c'est des... Non, non, non. Puis là, c'est comme c'était leur technique aux fans pour rencontrer le band, c'était de se lancer devant.
Littéralement une scène de The Last of Us.
Ah oui, c'était fou.
Mais ça, là, puis on va en parler de tous les autres bands avec qui tu as travaillé. Cette folie-là, est-ce que tu l'as revu ou non?
Non, non, non. Non?
Non,
jamais. Non, non, jamais. Hein? Non, avec les autres bands que j'ai travaillé, c'est tous des bons bands, mais...
Attends, Arcade Fire...
Non, non, non. C'est une crowd. La crowd est civilisée.
Ah, c'est ça.
C'est des gens de notre...
La crowd de Simple Plan aussi est civilisée. Ils sont juste plus passionnés.
Passionnés, c'est ça. Oui, non, c'est... Tu sais, Arcade Fire, c'est un peu... Je veux pas dire too cool to be cool, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, comme... Tu aimes ce band-là, c'est parce que c'est cool, tu respectes ça. C'est pas c'est pas la folie comme c'est pas... Non, j'ai jamais revécu ça. Ouais.
Hey, c'est drôle d'entendre ça. Moi, j'étais convaincu, tu sais, justement, là, quand un band s'arrange qu'au Grammy, là, ça doit être quand même assez... assez fou un petit peu partout sur la planète. Est-ce qu'il y a d'autres bands avec qui tu as travaillé qui avaient de la sécurité?
Je te dirais... Ben, j'ai travaillé avec The Voids longtemps. Ça, c'est le chanteur de Strokes, Julian Casablanca.
Ouais.
Lui, il y a un peu de sécurité avec lui. Sinon, Of Monsters and Men, quand même, non. Mais eux aussi, c'était...
Il y avait de la sécurité?
Non, il n'y avait pas
okay.
Non,
c'est ça. J'allais dire, moi, honnêtement, je les aime, Of Monsters and Men, mais s'ils rentrent ici en ce moment, je vais leur demander s'ils ont besoin d'aide. Là,
mais Arcade Fire, oui, dans le fond, ils ont de la sécurité parce que c'est un couple qui amène leur enfant en tournée. Fait que je pense pour la protection aussi. Puis il y a d'autres membres du groupe aussi qui ont des kids. Fait qu'il y a beaucoup d'enfants dans l'entourage. Fait que oui, ils ont un garde du corps, mais c'est plus, je pense, pour un peu pour la famille ou quelque chose de même, mais pas pour les fans qui vont se lancer sur le band, non.
Fait que, avec Simple Plan, tu as vécu la plus grande folie des fans, mais je sais qu'avec tous les autres bands avec qui tu as travaillé, tu as vécu d'autres moments pleins dont je suis ultra, ultra jaloux. Je regarde la liste de choses que tu as fait, puis tu sais, dans une vie, en tant que fan de musique, tu sais, tu veux mettre des crochets sur des trucs. Moi, j'ai déjà compté que j'ai eu la chance d'aller au MTV Video Music Awards. Mm-hmm. Pour moi, là, c'est un des plus grands moments de ces années-là avec Simple Plan. Toi, tu en as fait plein aussi. La première transition, est-ce que c'était Simple Plan, Arcade Fire?
Oui.
Ouais.
Pour l'autre band international, si on veut. Ouais. C'est en 2010, ça, j'avais un coup de téléphone du production manager d'Arcade. Arcade était prêt à partir pour l'album de Suburbs. L'album était enregistré, prêt à partir. Puis il y avait toute leur équipe technique, aucun drum tech et aucun tech de Montréal. Puis le band, c'est un band de Montréal, leur équipement est à Montréal.
Ah oui.
Puis ils sont comme, ouais, ça nous prendrait peut-être un drum tech de Montréal. Puis de fil en aiguille, je pense qu'ils ont trouvé mon nom. Ils ont appelé un drum tech qui travaillait avec l'éclairagiste de Simple Plan.
OK.
Puis lui, il n'était pas disponible. C'est lui qui a donné c'est l'éclairagiste de Simple Plan qui aurait donné mon nom. Puis ils m'ont appelé. Puis on a fait une entrevue.
C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un processus d'embauche?
Il y a le tour manager de New York qui a flyé à Montréal. On a fait dans le parc Bernard, je crois. Enfin,
ouais.
On a mangé une crème glacée, Bill Bucket.
Okay.
Le drummer d'Arcade Fire est là, la tour manager et moi. On a jasé pendant 10 minutes. Le drummer s'est levé, il a fait un thumbs up. Puis j'ai eu un billet d'avion une couple de jours après.
C'est plus une entrevue de personnalité qu'une entrevue technique. Là. C'est
ouais,
pas comme s'ils t'ont pas demandé de monter un drum en moins de 8 minutes.
Dans un parc. Ouais, change la peau. Non, je pense à ce niveau-là aussi. Ils hope for the best que je suis bon à ma job, mais ils veulent aussi savoir que ça va matcher parce que on va être ensemble longtemps. Puis
j'allais dire, on va être ensemble longtemps, puis on va être ensemble de proche parce que les autobus de tournée, on voit ça passer dans des villes, puis ça a l'air bien impressionnant. Ah, il y a peut-être un band là-dedans. Et comparativement à une van, on s'entend que c'est extraordinaire.
Ouais.
As-tu déjà fait une tournée de van?
Oui, oui, avec The Stills.
OK.
Ça aussi, c'est une belle. On ouvrait pour les Kings of Leon avant qu'ils soient big. C'était une tournée genre de club commandité par la compagnie de cigarettes Camel. C'était vraiment bizarre. Chaque personne recevait un carton de cigarettes en rentrant.
Ça, c'est votre paye.
Ouais. Puis on a fait une tournée. C'était Van and Trailer qui ouvrait pour les Kings of Leon en 2006-2007. Tu savais que c'était cool, comme avec les gars des...
Oui, des Stills qui sont très cool.
C'est ça.
En 2023, tu referais-tu ça, une tournée de van?
Non. Non, je peux pas. Les genoux, le dos... Puis tu ris, mais... je ferais tout ça. Je le ferais sûrement, mais le temps, comme tu dis, tu sais, j'ai une famille, puis le temps à la maison, il vaut cher, puis tu sais, travailler pour travailler, si c'est des belles conditions, puis tout ça, je vais dire oui, mais sinon... Mais si c'est une bande de mon meilleur ami, c'est sûr, je dis oui.
Mais on s'entend tout ça pour dire que le boss, ça a l'air super luxueux, mais ça devient très petit, très rapidement. Je pense pas que les gens réalisent. Souvent, on peut être jusqu'à 12 personnes. 12 humains, 12 gars, là, tu sais.
12, mais juste, parenthèse, retour sur le Warp Tour. Moi, le tour boss que j'étais, quand je travaillais sur le Warp Tour, on était 21 personnes. Ça s'appelait un slave ship.
Je sais même pas comment ça rentre.
Les front lounge, back lounge, c'était juste des bunks. Il y avait aucun espace
de vie.
Aucun espace de vie, c'était juste des lits. Ça,
c'est... Parce que l'autobus de tournée, à l'habitude, c'est pour ceux qui ne connaissent pas
c'est
ça.
12 maximum.
12 bunk beds. Fait que t'as comme 3-3-3, 3-3-3 des deux côtés. En avant, un petit salon.
Un petit salon cuisine très minime.
Ouais.
Chambre de bain. À l'arrière, un genre de sofa en U avec une télé.
Télé, ouais.
Un genre de lounge. Puis cette pièce-là, souvent, se transforme en chambre complète. Si on va dire que tu roules avec l'artiste principal, qui est une artiste. Mais elle ou lui va avoir sa chambre à l'arrière.
Avec un genre de lit double.
Les techs dans le milieu, puis le petit espace commun à l'avant.
Fait que, avec Arcade Fire, par exemple, j'imagine qu'avec The Suburbs, ils étaient rendus au niveau qu'il y avait un boss pour le band puis un boss pour le crew.
Ouais, okay. Ben, un peu plus que ça.
Ouais. Combien?
7.
7 boss?
2 boss pour le band, 5 pour le crew. On est environ 70 techniciens avec Arcade Fire.
Hey, fait que les 5 techs de Simple Plan, c'est...
Des fois, pour vrai, moi, j'essaie tout le temps de savoir le nom à tout le monde, mais ça peut te prendre des semaines et des semaines. Puis il y a du roulement des fois pour les éclairagistes, les gars de vidéo. Fait que des fois, tu ne sais même pas c'est qui.
Puis il n'y a pas de name tag. Hein?
Non, il n'y a pas de name
tag. C'est pas comme les premières journées d'école.
Discrets, des fois, ils travaillent comme... Moi, je commence un peu plus tard vu que je monte les instruments. Fait que des fois, je peux jamais croiser un avec quelqu'un avec qui je travaille pendant des mois. T'sais.
Ouais.
Je sais même pas c'est qui.
Hey, j'ai un million de questions, puis je vais faire du coq à l'âne, là, parce que là, tu dis justement, tu commences pas à la même heure que tout le monde. Une journée typique, là, une tournée d'aréna, disons.
Ouais.
T'sais, vous arrivez au Centre Bell, c'est quoi une journée typique? Comment ça fonctionne, l'horaire?
Moi, je rentrerai à 11h, si on veut, 11h, puis je vais monter la scène jusqu'à 3h l'après-midi, puis là, le band va soundchecker de 3 à 5, puis après ça, on aura un peu de temps mort, parce que c'est les premières parties qui vont se setuper.
Ouais.
Puis le show est à 9h d'habitude, fait qu'on va recommencer à se préparer à 8. Fait qu'on aurait du temps mort de 5 à 8, puis après ça, le show de 9 à 10 et demi à 11, démontage jusqu'à 1h du matin, douche rapide, au lit à 2h du matin.
Fait 11h le matin à 2h le matin, ça, c'est ta journée de travail
d'aréna.
Pas mal. Oui, oui.
Comme tournée de festival, si je m'en vais en Espagne demain, souvent, quand tu headlines comme Coachella ou comme tu veux, quand tu headlines ces festivals-là, il faut que tu set up avant
tout le monde.
Avant tout le monde. Fait que tu rentres à 1h du matin, tu set up jusqu'à 10h le matin, puis après ça, tu vas te coucher. Fait que ça, c'est du overnight setup, là, qu'il appelle. Ça, c'est un peu. On va le faire en Espagne pour Portugal. Là. On headline dans la nuit, puis après ça, quand le soleil se lève, les autres bands viennent devant nous. Hein.
Parce que 11h, oui, c'est sûr que si tu t'es couché à 2h du matin, tu n'as de besoin, mais c'est quand même tard. T'es pas le premier. Là. C'est qui les premiers? Il y a des gens qui vont aller installer tous les haut-parleurs, les lumières.
Avant ça, il y a les...
Les riggers.
Les riggers, c'est ça. Je
n'ai pas de nom français, moi, non plus.
C'est ceux qui vont installer les points au plafond pour que tu puisses installer... C'est eux qui vont installer les moteurs pour que tu puisses installer les systèmes de son. Nous, avec Arcade Fire, on voyage avec notre scène aussi. Okay. C'est notre stage à nous. Puis ça, eux commencent vers... Des fois eux, ils vont dormir dans le jour. Ça va être comme... Ils vont finir de démonter à 4h du matin. Ils vont, si on va dire qu'il y a juste 2-3 heures de route pour le prochain, eux, ils ne dormiront pas. Dès qu'ils rentrent à 6 heures du matin, c'est reparti, c'est ça.
Ouais. Ça, c'est tough.
Ça, c'est des gros, ouais.
Puis on ne peut pas les saluer parce qu'on ne connaît pas leur nom.
Non.
C'est ça.
Tom.
Tom! On salue Tom. OK. Fait que Arcade Fire t'embauche, un petit 10 minutes de blabla, ils disent « Ouais, ce gars-là, il a l'air sympathique, j'embarque. » Puis tu es embarqué sur une tournée, puis... C'était gros à The Suburbs, mais les choses ont explosé.
Ils ont explosé après. Ça, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que, pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler de ce band-là de ma vie. J'étais dans le crowd, tu sais, Simple Plan, punk rock. Tu sais, j'ai manqué un peu le indie de Montréal parce qu'on s'entend, tu le sais, avec Simple Plan, c'était pas des fois comme 2-3 mois. Là. Des fois, on était parti pendant... Moi, je me rappelle d'une fois le plus long, j'étais parti pendant 6 mois sans revenir à la maison. Là. On avait fait double tournée mondiale.
Je te comprends ce qui s'est passé, disons, dans le culturel québécois entre 2003 à 2008. Là.
Non, j'ai manqué beaucoup de choses.
J'ai manqué une couple d'affaires, moi
aussi. Je me reprends, mais j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Puis j'arrive avec eux, puis quelques mois après, mais ça, ils ont une nomination aux Grammys, ont fait des shows. Puis je sais pas si tu veux qu'on jase de ça tout de suite.
100%, mais... parce que autant que moi, les MTV Awards, c'était mon moment, là, comme je me suis pincé, j'ai encore chez moi le billet. C'est encore un moment qui, je ne sais pas si je vais y repenser sur mon lit de mort, mais ça fait partie des grandes fiertés de trucs que le band qui était mes chums ont réussi à accomplir, mais que moi, j'ai pu être dans la salle. je pense que ça me fait plus plaisir que si tu m'avais dit qu'on allait aux Grammys. Mais pour toi, les Grammys, c'est sûr que tu sais à quel point c'est prestigieux. Ça doit être... C'est pas une journée comme une autre, là.
Puis non, on avait deux... Il y avait deux tunes que le band allait jouer. Il était nominé contre... C'était contre Lady Gaga, Katy Perry, Eminem et un autre artiste que je me rappelle pas, mais c'était... C'est impossible que le band gagne. C'était comme... Non, c'est Katy Perry venait de sortir, je pense, son plus gros album. Eminem aussi, Lady Gaga. C'était
des grosses pointures.
C'était des tabarouettes d'albums. Fait que le band était comme, regarde, on est chanceux d'être ici, on est nommé.
C'est cool.
On va jouer une tune devant toute l'industrie, ça va être malade. Fait qu'on joue Ready to Start. Après ça, le rideau tombe. Nous, les techniciens, on reste sur la scène parce qu'ils jouent pour la fin du Grammys. Ils vont jouer Month of May. Fait qu'on est tous sur la scène. Le band se rassoit, puis c'est là qu'ils annoncent le gagnant. Et on est comme... Le gagnant va gagner, va monter. Après ça, le band va jouer le tune, c'est fini. Ben là, ils nomment. Alors, les nommés sont. Et les gagnants est Arcade Fire. Le band, en montant sur la... Là, on est tous les techs, tout le monde crie, on capote. Oui. C'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de gagner Grammy Album of the Year de Suburbs. Et le band est encore en train de fêter sur la scène, à dire merci, merci. C'est l'heure de prendre les instruments. Ils droppent leurs Grammys à terre, puis ils partent la tune. Puis là, c'est la fin du Grammys, puis on... Tout le monde capote, on n'a rien compris de ce qui s'est passé, mais après ça, les shows, mais ça, tout a doublé, quadruplé, des stades partout, c'est incroyable.
Et je sais qu'Arcade Fire, vu que c'est un band cool, je veux pas dire que les gars de Simple Plan sont pas cool, mais moins respectés dans l'industrie, le fait qu'Arcade Fire avait ce niveau de respect-là, à quel point est-ce que ça faisait en sorte que votre backstage... était quand même glamour. Tu sais, comme tout le monde, là, vous allez à Los Angeles, là, puis tout le monde voulait venir voir Arcade Fire. Puis ces gens-là, ben toi, tu travailles pour le band, ils étaient cool avec toi aussi.
Ouais, puis tu sais, pas pour rien, tu sais, David Bowie, il a aidé beaucoup à mettre Arcade Fire sur la map en disant que c'était un des bands à checker. Fait que je pense que ça a amené beaucoup aussi de curieux alentour à toujours vouloir hang out avec Arcade. Fait que j'ai fait des rencontres encore un peu ridicule. Là. J'ai été ami pendant un bout avec Aaron Paul de Breaking Bad qui suivait le band partout. Puis j'étais comme son point d'entrée de connexion au band. À toutes les shows, il venait à côté de moi, Frenchie! J'étais comme, hey Aaron, what's up? Puis c'est comme, il checkait le show, puis on jasait ensemble. C'est comme, puis lui, c'était une des plus grosses vedettes du monde avec Breaking Bad. Là. Puis j'ai des rencontres comme... Ben ça, c'est une anecdote que j'ai jamais contée. Notre premier Coachella aussi, Arcade Fire avait tout le temps des bobbleheads. Il invitait plein d'amis à danser sur la scène. Puis c'était tout le temps notre job au tech des enlevés de la scène parce qu'ils voyaient